9h, 11h, le club de l'été. Eva Rock.
Bonjour à toutes et à tous, saison 2, épisode 4 de votre club de l'été est toujours le même plaisir à vous retrouver, une parenthèse culturelle rythmée par nos et vos coups de cœur, par des idées de balade et autres conseils culinaires, de la matière pour épater les amis et s'enrichir. Deux heures que nous espérons divertissantes et au cours desquelles aujourd'hui vous entendrez les mots partition, émotion, imagination et restauration. Et pour m'épauler dans cette mission, mes deux piliers sont là, Lise Pressac pour le tourisme et la culture, Olivier Pouls pour la gastronomie. Bonjour les amis.
Bonjour.
Comment allez-vous? Ah oui,
voilà.
Si vous n'ouvrez pas votre micro,
oui,
non, mais
voilà,
ça ne va pas marcher.
Pourtant, ça fait 4 jours déjà,
mais
on devrait avoir les réflexes.
Alors n'insistez pas, il n'y aura pas de grand chef aujourd'hui pour concocter des plats d'exception. Non, comme
on
ça a été le cas
habitué,
hier.
Olivier, on l'a mal habitué.
Mais je pense qu'on va quand même se régaler, notamment grâce à vous, Lise, parce qu'on va partir où ce matin?
On va aller du côté de Château de Menthon-Saint-Bernard. Alors, ce n'est pas un château avec du vin, je suis désolée, mais c'est un château de contes de fées.
C'est près. Alors, c'est en Savoie. Alors justement, Olivier, quel genre de gastronomie peut-on déguster dans ce coin de France?
Eh bien, on se posera la question, y a-t-il autre chose que la tartiflette, la raclette et la fondue?
On espère.
Réponse tout à l'heure avec un très grand chef et puis un vrai faux du jour aussi.
Oui, bien sûr.
On va parler des œufs. Vous connaissez peut-être cette technique de grand-mère qui consiste à plonger un œuf dans un verre d'eau pour savoir s'il est frais ou pas. Est-ce
que ça marche?
Est-ce que c'est fiable et pourquoi?
Mais il va falloir voir si c'est vrai ou pas cette assertion. Ouais. Merci beaucoup Olivier, l'émission se terminera aussi avec votre recette. Hein. Et puis vous allez répondre aux questions envoyées par les auditeurs parce qu'il y en a eu beaucoup depuis hier. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou sur Instagram. Et nous sommes là évidemment pour vous répondre. Le Club de l'été, c'est parti en direct jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
Lise Pressac et Olivier Pouls, nous sommes abonnés à l'excellence. Hein. Notre invité n'est pas un chef 3 étoiles, mais dans son domaine, il mérite 5 étoiles. Cher invité, tendez l'oreille. Les sons qui suivent racontent des tout petits bouts de vous.
Il a tout juste 25 ans et d'ores et déjà, c'est un des violonistes français les plus réputés. Il est d'ailleurs récipiendaire du prix des jeunes virtuoses.
Madame, ora lo dico pure al cassiere, non devi mangiare più nemmeno le zanzine, hai capito?
Alfredo!
Non me laisse moi.
Je vois notre invité hyper concentré. Bonjour Renaud Capuçon.
Bonjour Eva.
Nous sommes très heureux d'accueillir un violoniste dans ce club de l'été sur Europe 1. C'est une première pour nous. Avant d'évoquer votre carrière et votre dernier album intitulé Cinéma et dans lequel vous interprétez 19 bandes originales de films, est-ce que vous pouvez nous décrypter ce que vous venez d'entendre?
Alors j'ai entendu, reconnu le générique et la voix de Philippe Labro. C'était pour cette émission qui s'appelait Ombre et Lumière et je pense que c'était il y a longtemps.
C'était une de vos premières émissions de télé?
Absolument, et c'est là où j'ai rencontré Philippe Labro, qui est devenu un de mes meilleurs amis entre-temps. Il m'a encore écrit hier. C'était émouvant d'entendre sa voix. C'était une rencontre, on s'est vraiment rencontrés sur cette émission.
Il vous avait découvert au Festival de Salzbourg.
Absolument.
Juste avant, c'est ça?
Donc ça devait être en 98, 97.
Ouais. Qu'est-ce que vous avez entendu d'autre? Un générique d'une grande émission que vos parents regardaient?
Oui, alors est-ce que c'était justement c'est pour ça que j'étais super concentré, il y avait plein d'informations en même temps, mais ça me rappelait, ça me faisait, j'avais une impression de Madeleine de Proust, mais c'est pas la musique du Grand Échiquier.
Exactement, c'était la musique du Grand Échiquier.
J'étais pas sûr.
Oui, c'est ça, tout à fait. Incroyable. On a aussi entendu Le Petit Ramoneur de Benjamin Britten. Vous pouvez raconter aux auditeurs ce que ça signifie pour vous?
C'est un opéra pour enfants de Britten que j'ai entendu en boucle quand j'avais entre l'âge de 4 et 10 ans. Que j'ai fait écouter à mon fils après.
Vous n'écoutiez pas Henri Dess, quoi?
Si, on a écouté Henri Dess. Et d'ailleurs, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, c'était super émouvant. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps, je pensais qu'il comme je l'écoutais gamin, je me suis dit qu'il va être très vieux. Il n'est pas du tout très vieux,
il a pas d'âge.
Sympa et formidable. C'est vrai que la musique du Grand Échiquier, enfin, le générique, ça c'est toute une période, et puis surtout mon amitié avec Jacques Chancel, qui était un très 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 proche, avec qui j'ai passé des heures à parler.
On a également entendu un extrait du film Cinéma Paradiso. Je crois que c'est un de vos films préférés.
Oui, c'est un des films qui m'a énormément
marqué.
Avec
la voix de Philippe Noiret en italien.
Et l'été, cet été va être... il y a une sorte de cycle dans la vie. C'est que j'ai décidé de le faire voir à mon fils cet été. Donc voilà, je l'ai mis dans la valise là, et on va le regarder ensemble. Et c'est un moment que j'attends avec impatience parce que moi, je ne l'ai pas revu depuis. Et l'idée de le voir avec une autre génération, c'est émouvant.
C'est le film préféré de Lise Pressac,
je crois. C'est un film de famille aussi pour nous. Et je crois que c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer. Donc, c'est peut-être la première fois que votre fils vous verra pleurer, je sais
possible,
pas.
Possible, mais... je vais prendre des Kleenex, je vais cacher.
Mais rien que la musique, moi, les larmes peuvent me venir. Donc,
et alors, est-ce que vous savez pourquoi j'ai mis du Philippe Catherine et la banane ?
Non, mais ça, non. C'est moi.
Mais pourtant, c'est un truc qui vous touche personnellement. Et j'ai cru comprendre que vous avez des rituels avant d'entrer sur scène.
Oui, je mange des bananes avant de jouer. Ouais. Alors, pas tout le temps. C'est en fonction de l'énergie dont j'ai besoin. Si je joue le concerto de Brahms, j'ai besoin de 2 bananes, je pense, à peu près. Tchaïkovski, 3. Si c'est Mendelssohn, c'est 1. Mozart, la moitié d'une. Et puis, parfois on n'a pas besoin. Non, mais c'est vraiment une question de... La banane, c'est vrai que c'est un fruit. Merci. J'allais dire un légume. Que je ne mange qu'avant un concert. C'est très bizarre. Et quand on me propose une banane après un dîner, si j'accepte de manger une banane, j'ai l'impression que j'ai un concert qui va suivre. C'est
et
très,
donc
très
vous mettez à jouer en fait. Non, vous mangez une banane.
Non, mais vous racontiez dans une interview que vous ne mangez pas de banane en dehors de vos concerts.
C'est très bizarre. C'est totalement associé. Et rien que d'y penser, là, j'ai l'impression que je vais avoir un concert. C'est associé au concert. Par contre, le thé, ça, c'est une
chose. Un thé noir. C'est ça?
Oui, que je bois. Et je suis un peu perdu si je n'ai pas le thé avant le concert. Donc j'ai toujours des sachets de thé dans ma boîte à violon. Il y a des endroits où il n'y a pas de thé.
Renaud Capuçon, je le disais, votre dernier album est composé de 19 reprises de musique de films. Vous êtes en tournée actuellement. On va donner les dates au fur et à mesure de l'émission. Je les ai perdues. Elles sont là, sous mes yeux. Le 10 août à Varangeville, sur-mer. Le 12 et 13 août à Menton. La Roque d'Enterron. Le 16 août, magnifique festival. Le festival de Megève également. Le 19, le festival Berlioz. Le 21 août, festival Ravel. Le 26 août. On va mettre toutes ces dates sur Twitter. Et puis on les retrouve aussi sur votre site internet, bien évidemment. Dans une interview accordée au Figaro, vous disiez avoir imaginé ce disque cinéma comme un voyage générationnel dans le 7e art. Je me suis demandé si vous étiez de nature nostalgique.
Oui, je pense que quand on est artiste, il y a une part de nostalgie d'abord parce qu'on pense toujours aux artistes qui nous ont portés, qui nous ont inspirés. Et puis parce que quand même, la musique est universelle et il n'y a pas de mots et la musique fait appel aux émotions immédiates. J'ai joué hier dans ce restaurant Refettorio pour des gens qui sont vraiment dans le besoin et qui n'ont pas les moyens ni d'aller au concert ni d'aller au restaurant. Et c'est super émouvant parce que j'ai joué un quart d'heure et on crée un lien sans parler avec ces gens-là. C'est génial. J'ai joué un peu de Moon River.
Ouais.
Et les 50 personnes qui étaient là sont mis à chanter pendant que je jouais. C'était super émouvant. C'est ça, la musique.
Ouais.
Et donc, oui, on ne peut être que nostalgique, mélancolique, mais on est aussi... plein d'énergie et très optimiste. C'est pas, la mélancolie ne veut pas forcément dire la dépression.
Olivier Pouls,
heureusement.
Ouais. Est-ce que la musique de cinéma peut justement amener à aller vers la musique classique, peut-être un peu plus difficile à comprendre pour une certaine catégorie de personnes? Et c'est vrai que j'ai eu la chance, par exemple, d'écouter à la mode des orchestres philharmoniques qui jouent en direct pendant la projection d'un film. Et ça capte un public qui ne viendrait pas écouter des musiciens classiques.
Vous avez tout à fait raison. Je m'en rends compte en ce moment. J'ai donné plusieurs concerts en province, dans des festivals depuis le mois de juin. Et où j'ai joué des récitals avec du Brahms, du Beethoven, donc pas de la musique de film. Et on vient me voir après avec le disque cinéma en me disant
oui,
on vous connaissait pas, on est venu et ils sont venus écouter du Brahms. Donc c'est formidable parce que ça veut dire que ça donne une sorte de confiance à ces personnes qui n'osaient pas. C'est pas que la musique est plus compliquée. Une sonate de Brahms n'est pas plus complexe à entendre que Cinéma Paradiso. Simplement le format est un peu différent.
Voilà. Et puis on a ces images aussi en tête quand on a vu le film
aussi,
qui
ça
vous
rassure,
porte et
absolument.
Qui vous rassure.
Et hier il y avait à Paris un flash mob où effectivement des gens sont venus danser sur la musique de Rabbi Jacob.
Oui, oui.
Jouer en direct, vous auriez pu la jouer.
Jouer. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi qui adore le film, ça aurait été assez marrant de voir ça.
Nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour évoquer votre art, votre conception de la musique et puis vos coups de cœur culturels. Après, il faudra vous libérer, sinon vous allez louper votre train. On poursuit en musique avec une autre musique qui n'a rien à voir. Hein. Dermot Kennedy et son titre Power Over Me, c'est sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1, Eva Rock.
I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I'm out running the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. You got that power over me. You got that power. Rolling down the
So we had a way and never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me.
L'Irlandais Dermot Kennedy sur Europe 1. Dans un instant, nous retrouvons notre invité VIP, Renaud Capuçon.
9h, 11h.
Ça y est, ils sont tous prêts.
Silence !
Et maintenant, Lise, elle va danser. Notre réalisateur récupère des sons, que j'ai, des bouts de phrases que j'ai dites hier. C'est très moche, Robin, ce que vous venez de faire. Il est 10h, il est 9h24, pardon. Nous sommes en direct sur Europe 1 pour votre rendez-vous estival, le club de l'été. Notre invité du jour est le violoniste Renaud Capuçon. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, via Twitter avec le hashtag Europe 1. Avec Lise, on va relayer vos messages et puis vos questions également. Renaud Capuçon, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer une journée sans musique, c'est-à-dire sans en écouter ou sans en jouer?
Ah oui, toutes les vacances qui arrivent très vite là, pendant
ah, c'est vrai,
semaines.
Mais même à ne pas en écouter.
Oui, il n'y aura pas, quasiment pas de musique parce que j'ai besoin de nature, j'ai besoin de, je vais couper aussi tous les téléphones. J'ai besoin d'une vraie, un vrai détox.
Est-ce que c'est vous qui avez choisi de faire du violon ou c'est le violon qui s'est imposé à vous?
Un peu des deux. Je pense qu'il s'est plutôt imposé à moi. Mais c'est la musique qui s'est imposée à moi plus que le violon d'ailleurs. Il se trouve que c'est le violon que j'ai commencé, avec lequel j'ai commencé. Mais plus je vieillis, plus je mûris et plus je me rends compte que la musique fait partie intégrante de ma vie, comme vraiment la nourriture ou la lecture. C'est une chose qui me nourrit vraiment.
Alors, j'ai lu que vous aviez appris grâce à la méthode Vivaldi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Oui, en fait, c'était la méthode Vivaldi, c'est un peu comme la méthode Suzuki. C'était un groupe d'enfants. Les cours n'étaient pas personnels, c'est des cours à deux ou à trois. Et puis, on se retrouvait toutes les semaines pour jouer à 15 ou 20 violons ensemble. Alors, ça sonnait horriblement au début, maintenant que je me souviens. Mais c'était le bonheur de se retrouver ensemble. Et je crois que mon amour du partage de la musique est né de cette façon d'avoir joué tout de suite avec d'autres.
On vous mettait tout de suite sur scène aussi,
j'ai j'ai joué très tôt, mais c'était quasiment de la figuration. Moi, je savais quasiment rien faire. Mais je suis rentré sur scène à 4 ans et demi avec ceux derrière qui jouaient vraiment. Et nous, devant, on était figurants quasiment. Mais on était sur scène.
Alors, à ce sujet, Isabelle, qui est sur Twitter, nous a envoyé un petit message pour vous. En tout cas, une question en vous demandant quelle œuvre pour initier les enfants à la musique classique.
C'est une bonne question. Hein. Je pense que ça dépend de l'enfant. Ça dépend. Je pense qu'il faut que ça soit une œuvre qui soit connectée aux parents et que le parent puisse faire partager, c'est presque plus important que l'œuvre en question. Ça peut être les 4 saisons du Vivaldi, ça peut être une pièce de Beethoven, ça peut être un petit opéra pour enfants de Britten ou ça peut être une chansonnette. L'essentiel est que le parent puisse l'amener à l'enfant avec des étoiles dans les yeux.
C'est moi, c'était Pierre et le Loup.
Carnaval
des animaux.
Carnaval des animaux et Pierre et le Loup raconté par Gérard Philippe, évidemment.
Absolument.
On parlait de cinéma en début d'émission. Quelles sont vos sources d'inspiration? C'est plutôt d'ordre visuel ou il y a un autre de vos sens qui est particulièrement développé?
Dans le choix des pièces que j'ai...
Oui, quand vous jouez d'une façon générale, quand vous créez.
Je pense que quand on est sur scène, il se passe une chose qui est difficile de décrire parce que on a l'impression que tous les sens se regroupent pour former un sixième sens. J'ai cette impression quand je joue avec Martha Argerich, par exemple, qui est une des plus grandes pianistes aujourd'hui, et on a l'impression que quand on se trouve dans cette espèce de zone qui est presque paranormale, on a une liberté absolue. Et je pense que c'est ça, la musique sur scène, ça peut être des couleurs, ça peut être des odeurs, des émotions, des souvenirs. C'est un mix de tout ça qui fait qu'on est vraiment... Et c'est ce qui fait que quand on n'est pas concentré, le concert peut ne pas être vraiment réussi parce qu'on n'arrive pas à accéder à cet univers qui est l'univers un univers personnel et qui va arriver jusqu'à l'auditeur, qui lui-même va le reconstituer avec son univers
bien
à lui.
Sûr, ouais.
Et c'est pour ça que c'est totalement subjectif. Vous pouvez avoir deux personnes assises au concert à côté. L'un va adorer l'artiste et puis l'autre va dire « Oui, ce soir, je n'ai pas senti grand-chose. » Et l'autre sera en pleurs. C'est totalement subjectif.
On sait qu'il y a une relation qui est très forte entre le violoniste et son instrument, oui. son violon. Alors, sur quel instrument vous jouez aujourd'hui?
Je joue un Guarnerius de 1737 qui a été fait à Crémone.
Quand même.
Qui est magnifique, qui est un des plus beaux violons au monde et qui a été joué par Stern, Isaac Stern pendant 50 ans. Et c'est vraiment mon partenaire de vie.
Vous l'avez acheté, je crois.
Je l'ai acheté l'année dernière et maintenant je paye jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est une belle histoire aussi de chaque mois rembourser l'instrument de son travail. Il y a quelque chose à côté, j'aime bien ce côté savoyard, un peu laborieux, un peu. Voilà, c'est pas juste facile, on achète un violon, tiens, voilà, j'ai acheté un petit violon. Non, je me suis vraiment. Oui, c'est l'achat de ma vie.
Et il change avec le temps, il vieillit en même temps que vous?
Oui, c'est plus que ça. Je pense déjà il est déjà très très vieux.
Beaucoup
il a tellement bien sûr. Il a surtout déjà tellement existé, tellement joué avec Isaac Stern, avec les autres. J'ai le curriculum de qui il a joué depuis les années 1700. C'est extraordinaire. Et effectivement, il change parce que je change. C'est-à-dire que ma façon de jouer évolue. Voilà, quand j'ai été père, ça a changé. Si je suis en bonne forme et de bonne humeur, il sonne d'une certaine façon. Si je suis un peu coincé, un peu stressé, il se ferme. C'est un peu comme un pur sang. Il y a un rapport extrêmement. Comment dire? Il y a une fusion entre l'instrument et l'instrumentiste.
Dans un instant, Renaud Capuçon, on va encore parler de musique avec votre coup de cœur. Et quel coup de cœur? C'est même un coup au cœur. Puis Valérie, une auditrice, sera également en ligne avec nous pour nous parler d'un artiste qu'elle adore. A tout de suite pour la suite du Club de l'été sur Europe 1.
Europe 1.
Là, cet été, elle est nulle!
Mais c'est où ailleurs? Rien à faire!
Et les fans!
Avril 79, une déflagration rock bouleverse le paysage musical français.
Europe 1 célèbre les 40 ans de l'album culte Crache ton venin et fait sonner téléphone pendant 2 heures.
Avec un document sonore exceptionnel, des lives,
en présence de Richard Colinka et Louis Bertignac.
On peut pas rater une telle occasion.
La Story Téléphone, présentée par Émilie Mazoyer, c'est dimanche dès 20h sur Europe 1.
Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Commandez vos fournitures scolaires sur marentrée.carrefour.fr.
Ouh là là, je vois d'ici le truc compliqué, non?
Non. Prenez en photo votre liste de fournitures avec votre smartphone. Retrouvez-la directement dans votre panier et faites-vous livrer chez vous en point relais ou en magasin.
Alors là, je dis oui. Et je dis pas souvent oui.
Commandez votre liste de fournitures scolaires sur marentrée.carrefour.fr. Et jusqu'au 14 juillet, profitez de moins 10% sur votre commande avec le code marentrée. Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Montant minimum d'achat 25 euros. Modalité sur marentrée.carrefour.fr.
Ford. Wow, chez Ford, plus que quelques jours pour profiter d'offres exceptionnelles sur 10 000 véhicules neufs, tout équipés, prêts à partir.
C'est bien, mais t'as pas oublié quelque chose?
Ah si, Teddy, et profitez de la reprise de votre véhicule jusqu'à plus 10 000 euros. Rendez-vous vite chez votre concessionnaire Ford.
Voilà, tu vois quand tu veux.
Dépêchez-vous, les ventes à l'américaine chez Ford, c'est jusqu'au 15 juillet.
Allez, allez, allez!
C'est Teddy qui l'a dit.
Exemple d'offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 15 juillet d'un Ford Edge 9 en stock dans le réseau Ford participant, voir Ford.fr. Wouh!
Allez, Michel, allez, on bouge! Vas-y, arrête la musique, arrête tout là! Voilà, en fait, juste, les gars, je voulais vous dire que même pendant vos vacances, vous pouvez recycler vos petits appareils électriques dans les meubles de collecte présents dans les grandes surfaces! C'est pas beau ça?
Cet été, libérez-vous l'esprit. Faites le vide dans vos placards, caves et greniers en recyclant vos appareils électriques hors d'usage. Toutes les solutions de recyclage sur écosystème.fr.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le Club de l'été. Notre invité est le violoniste, j'allais dire violoncelliste, mais non, le violoniste Renaud Capuçon, dont le dernier album cinéma est évidemment disponible en physique, mais aussi sur toutes les plateformes. Renaud Capuçon, chaque jour, notre invité nous fait partager un coup de cœur et vous avez choisi ça.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris.
Depardieu, chante Barbara.
Ça irrisse les poils.
Voilà, et je dois vous faire un aveu. J'en avais les larmes aux yeux en préparant l'émission. Pourquoi ce choix, Renaud Capuçon?
Pour les mêmes raisons que vous, parce que moi, je suis allé le voir au Cirque d'Hiver. Et qu'on était avec ma femme très heureux d'y aller et on a été juste en larmes du début à la fin, pris par une émotion réelle. Il y a quelque chose d'une sensibilité incroyable. Il vit la scène je sais pas comment l'expliquer, c'est un moment magique, c'est vraiment un moment magique. Et moi j'écoute un de ces disques, il y a deux disques, il y a un disque en studio, un disque live, j'écoute le live, mais quasiment tout le temps. Ça met dans un... Alors là, la nostalgie, elle est totale.
Oui, d'accord.
Y a en même temps toutes les fêlures de Depardieu qu'on sent. Il y a son amour pour Barbara, son amour véritable. Et puis, il y a le miracle de la musique ou de l'art ou de l'acteur. Il y a cette espèce de moment suspendu où finalement, on est hors du temps. Mm-hmm. On est avec lui, on est avec Barbara, on ne sait pas trop, c'est la musique. Il est entre voix et musique, parfois il parle. Il y a une espèce de cassure, on sent que la voix tremble, mais c'est ce qui fait la beauté. Et ça donne aussi à nous, les musiciens classiques, qui sommes tellement dans la performance, la perfection, ça donne beaucoup de... ça montre à quel point la fragilité, parfois, peut être tellement miraculeuse. Oui. Et finalement, moi, ce que je vois dans tous les jeunes aujourd'hui qui jouent, le niveau est incroyablement élevé dans la musique, dans les violonistes, etc., mais... Des sonorités qui vous font, qui vous mettent les larmes aux yeux sur 15 secondes, il n'y en a pas beaucoup.
C'est un peu le cas dans la cuisine d'ailleurs. Vous avez des gens qui sont extrêmement techniques, qui sont imbattables sur le dressage d'une assiette, mais il manque parfois un peu l'émotion. Et c'est ça aussi dans la musique, c'est l'émotion.
Mais l'émotion, elle ne s'apprend pas.
Elle est parfois un peu imparfaite.
Absolument. Ça d'abord, et puis en plus, l'émotion ne s'apprend pas, elle se vit. Et je pense que ce qu'on ressent chez Depardieu aussi, c'est toute sa vie. C'est sa vie de grand acteur, d'homme qui a vécu des choses formidables et dramatiques, et ça, on le reçoit.
Vous vous souvenez la dernière fois où vous avez pleuré en écoutant une chanson ou un morceau ? Si ça vous est déjà arrivé ?
Oui, ça m'arrive,
moi, c'est
bien
hier,
sûr.
Mais bon,
très franchement, je ne me souviens pas. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai vraiment dû vraiment retenir mes larmes. C'était à ce concert, et autrement... Après, dans des moments privés où moi je suis en train d'écouter la musique, oui, mais je n'ai pas de date précise.
Merci beaucoup Renaud Capuçon pour ce choix. Depardieu chante Barbara, c'est un spectacle et un disque. Hein, et c'était votre coup de cœur, mais aussi le coup de cœur du Club de l'été. Les auditeurs aussi ont envie de partager un coup de cœur. C'est le cas de Valérie qui nous a écrit sur Twitter. Bonjour Valérie.
Bonjour Eva.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous aviez envie de nous parler d'un auteur-compositeur que j'adore par ailleurs. On va écouter quelques secondes de sa voix, c'est Da Silva.
J'aimerais tant avoir des couleurs.
Da Silva qui est actuellement au Festival Off d'Avignon et qui sera ensuite en tournée dans toute la France avec un conte musical pour enfants qui s'appelle Le Mystère des Couleurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix, Valérie ?
Oui, mais Da Silva, bon, on parlait d'émotion avec Gérard Depardieu, et Da Silva, il fait partie de ces artistes qui, dès qu'on entend la voix, dès qu'on s'attache à son écriture qui est fine, ciselée, différente, singulière, on part dans l'émotion. Voilà, moi j'ai découvert Da Silva grâce à Europe 1, donc un jour je monte dans ma voiture et j'entends Le Carnaval, c'était je crois il y a plus de 10 ans.
Oui, c'est ça.
Et,
oui.
Voilà, je dis, C'est quoi ce chef-d'œuvre ? Et donc je suis allée acheter l'album et les albums, les deux précédents, et depuis il fait partie de ma vie, de mon univers. Et là, ce que j'aime bien chez Da Silva, c'est que ses chansons peuvent être un petit peu pas noires, mais c'est pas dans la gaieté folle, sauf le dernier, l'extrait de son prochain album Loin, qui est d'une légèreté qui pourrait être l'hymne du club de l'été, parce que c'est un appel à lâcher prise. C'est vraiment, on dira des choses, des détails, mais rien de morose. Et ce que j'aime chez Da Silva, c'est comme un peintre, il a des périodes, Picasso a des périodes roses, des périodes bleues, voilà. Mais c'est chaque fois avec la même qualité, la même. Et là, au Festival d'Avignon, c'est un conte, c'est Le Mystère des Couleurs, c'est un conte qu'il a écrit en 2006 et qu'il monte sur scène tous les jours au théâtre de l'Arrache-Cœur à midi. Donc pour mettre en appétit, il faut aller au théâtre, il faut se nourrir de ça.
Valérie, on est bien d'accord, vous n'êtes pas son attaché de presse, vous n'êtes pas sa femme, vous n'êtes pas sa
fille, sa cousine.
S'il cherche une attachée
plus...
de presse, c'est bon.
Voilà.
Allez,
je suis plus âgée que lui, je sais bien que c'est à la mode, mais...
Mais merci beaucoup Valérie pour ce coup de cœur, vous en parlez très très bien. On entend quelques notes de Carnaval justement.
Voilà, et Le Mystère des Couleurs, il faut aller le voir, c'est l'histoire d'un corbeau qui n'a pas de couleur, qui est peintre et qui est dans le malheur parce qu'il n'a pas de couleur. Il voudrait que ses ailes soient peintes en bleu et ils vont en partir avec ses amis à la recherche de tout ce qui peut faire les couleurs. Et c'est pour les petits mais aussi c'est pour les grands parce que comme disait Brel, c'est ceux qui ont eu le talent de vieillir sans être adultes peuvent y aller et c'est ouvert à tout le monde et c'est une émotion fantastique et il faut y aller. Voilà.
Et ben merci beaucoup Valérie.
Merci à vous.
Vous nous rappelez quand vous voulez pendant l'été pour un autre coup de cœur, hein, évidemment.
Rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris.
Si je voudrais dire merci à Renaud Capuçon de mettre la musique classique à la portée de tous. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'être éduqué dans la musique classique quand on est enfant. Et je trouve que par le biais, par divers biais, par le biais des musiques de films, on peut acheter le disque, avoir on appréhende la musique classique autrement, et après on peut aller dans les grandes œuvres. Et ça, c'est tous ces gens au Festival d'Avignon, Jean Villard faisait la passerelle, Renaud Capuçon, il fait la passerelle, c'est une passerelle, et j'aime beaucoup cet état d'esprit. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci infiniment. Merci beaucoup Valérie. Si vous aussi, vous voulez participer au Club de l'été comme Valérie, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Voilà, ça m'a fait très plaisir de vous entendre. Renaud Capuçon, dans un instant, on continue de parcourir la liste de nos envies avec nos coups de cœur écran. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h. Pardon, excusez-moi, je souris, enfin je ris même, parce que Olivier Pouls Olivier Pouls vient d'ouvrir une bouteille de vin pour faire une dégustation à Renaud Capuçon, d'un de vos vins préférés, je crois, Renaud.
Oui, c'est un vin de Pessac-Léognan.
Un château Olivier, figurez-vous. Voilà.
Et c'est vrai qu'on vient de, on va pas se cacher, on vient de goûter, on a simplement testé.
Oui.
Oui, on ne va pas la boire en entier. Hein.
Non, non, non. C'est toujours avec modération. Il est 9h40 du matin.
Et on était en train de se dire que ça fait très, très longtemps. Je crois que ça ne m'est jamais arrivé de boire si tôt.
Voilà. C'est juste, on précise. Hein, vous pouvez le voir d'ailleurs sur Internet, sur le site europe1.fr. C'est vraiment une toute petite goutte pour goûter ce grand vin. Merci,
Olivier.
Oui, on m'avait
donné
l'information
que c'était son appellation préférée. Oui, merci. Donc, vous voyez, on sait recevoir.
Hein. Voilà. Renaud Capuçon, est-ce que vous avez le temps de regarder la télé ou une quelconque plateforme?
Oui, je regarde beaucoup Molotov, ce qui est très pratique, parce qu'il y a toutes les chaînes.
C'est une plateforme, en fait, où vous avez toutes les chaînes qui sont réunies. Voilà.
Et je regarde essentiellement des séries, parce que c'est un des formats courts. Je regarde, quand j'ai plus de temps, des films. Et c'est vrai qu'autrement, je regarde pas mal d'infos, et j'essaie de regarder ma femme chaque fois que je peux sur
CNews.
Laurence
Ferrari, parce que c'est vraiment la vie depuis
tout. Et puis, comme ça me donne un peu un aperçu de l'actu. Mais je suis, quoi qu'il arrive, l'actualité de façon très très proche en lisant les journaux.
J'ai cru comprendre que vous aviez adoré la série Tchernobyl qu'on peut voir en ce moment sur OCS.
Oui, je pense que c'est une des plus grandes séries qui, pour moi, en tout cas, avec ma petite expérience de série, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.
Qui est très noire, qui est à la limite étouffante.
Oui, mais c'est la vérité, je crois. Oui, vraiment la vérité. On a tous vécu Tchernobyl, enfin on est tous de la génération qui a certainement été impactée par ça. Moi j'avais 10 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. On habitait Chambéry, on nous avait expliqué que le nuage s'était arrêté à la frontière suisse, ce qui est assez drôle. Pas drôle du tout d'ailleurs, mais je pense qu'on a tous été, et on vit pour la première fois, on a l'explication de ce qui s'est passé, pas de façon factuelle par un livre, mais là c'est une série, donc c'est fait de façon extrêmement ludique, mais surtout très très forte, et c'est joué génialement.
C'est excellent et c'est à voir sur OCS. Vous pouvez aussi la télécharger légalement, mais vous pouvez l'acheter évidemment. Ce soir, moi, je vous conseille de regarder sur France 5 à 20h55 un numéro exceptionnel d'une mission qui est incontournable, J'irai dormir chez vous, menée par un globe-trotteur qui n'est pas tout à fait comme les autres, qui s'appelle Antoine de Maximi. Il a ses caméras fixées sur lui. Il tente de s'inviter chez les gens au cours de ses pérégrinations. Et ce soir, France 5 rediffuse son périple au Cap-Vert. Et il a un succès incroyable, Antoine de Maximi. Écoutez.
Tu as une femme?
Une femme? Si, j'en ai plein. Plein.
Des Capverdiennes?
Non.
Non.
Ici,
pas ici?
Antoine.
Il y a Antonia.
Antonia.
C'est une casale.
Tu peux l'épouser.
Une casale.
Je veux me marier avec elle.
Et vous savez quoi? On est en ligne avec Antoine de Maximi. Bonjour, Antoine.
Bien sûr. Bonjour.
Dites-moi, ce voyage au Cap-Vert, c'était très caliente, hein?
Oui, il faisait chaud, c'est ça la question?
Oui, c'était à peu près ça. Vous avez fait beaucoup de rencontres avec des jeunes femmes, j'ai cru comprendre. Enfin, j'ai même vu.
C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y avait un peu des dominantes féminines et que du coup, il y avait un peu une pénurie d'hommes. Et comme en plus, c'était très, très marrant, très... Ouais, c'était chaud, sympa, vraiment.
Alors, c'est une soirée un peu spéciale, Antoine, parce qu'en fait, c'est une rediffusion d'un documentaire que vous avez fait il y a quelques années. Et après la diffusion de votre film, en fait, vous assurez le SAV, en quelque sorte.
Voilà, j'emmène les gens dans les coulisses de ce voyage en leur racontant déjà comment ça s'est passé. Et puis aussi en leur montrant des rencontres qu'on n'a pas vues. Plein d'inédits, en fait. Il y a une bonne partie de, 30-40 minutes derrière qui raconte justement tout ça, tout ce qu'on n'a pas vu.
Pourquoi vous avez voulu faire cette sorte de SAV? C'est à la demande des téléspectateurs ou vous aviez une petite frustration à ne pas avoir tout raconté au cours du premier voyage?
Les deux.
Les deux?
C'est les deux, oui, parce que les gens ont toujours envie d'en savoir plus, d'en voir plus, et je pense même qu'on aurait pu leur en mettre plus, et qu'ils auraient été, ils auraient apprécié. Et puis moi aussi, parce que moi je sais, à la différence des gens, je sais tout ce que j'ai pas pu
faire. Et oui.
Et parfois il y a des séquences qui sont vraiment bien, et c'est juste une histoire de durée. Je peux pas, 52 minutes, c'est 52 minutes.
Ilyse Pressac a une question pour
vous.
Oui, vous
revenez avec combien d'heures de rush pour un 52 minutes?
Alors, grosso modo, je reviens avec une quarantaine d'heures de contenu.
Oula, ouais. Voilà, donc c'est frustrant.
Et donc, il faut réduire. Alors, évidemment, ouais, c'est ce que je disais, il y a des très, très belles séquences. Parfois même des moments qui ont été tendus ou des gens chez qui j'ai et dormi, oui. Que je peux pas mettre.
Antoine de Maximy, vous avez eu aussi une très bonne nouvelle cette semaine, j'ai cru comprendre.
Ah oui, on a une petite nouvelle qui était pas mal. C'est-à-dire que ça fait un moment que je veux faire un long métrage de fiction basé sur « J'irai dormir chez vous ». Et comme ça bougeait pas et que les années passent et que bah, j'ai décidé que maintenant je le faisais, on a lancé un financement participatif qui s'est terminé dimanche.
Et qui s'est bien terminé. Ouais.
Ah oui, on a quand même récupéré 256 000 euros.
Ah ouais.
Voilà.
Donc le film aura lieu.
Vraiment le. Ouais. Bah, ça correspond à 10% du budget, mais ça lance la machine. Ça rassure plein de gens qui se posent des questions sur une émission de télé qui passe au cinéma, en fiction, enfin bon. Parce que c'est vrai qu'une fois de plus, je...
Ah, on a perdu Antoine de Maximy.
J'irai dormir chez vous il y a 15 ans, personne n'en voulait. Donc, ça ne m'inquiète pas.
Oui, et ça s'appellera J'irai mourir dans les Carpates, si je suis bien informée.
Voilà, comme ça tout est clair.
Voilà, et vous allez quand même continuer à tourner des documentaires sur France 5, Antoine de Maximy?
Pas tout de suite, parce que j'ai vraiment décidé que... Le problème, c'est que quand on tourne des documentaires, on n'est pas 100% sur le long métrage.
Et oui.
Donc j'ai dit que j'arrêtais, je fais ce film, et après, il est probable que j'en referai, parce que j'aime beaucoup faire ça.
Eh bien, on attend de vous revoir à l'antenne. En tout cas, on peut vous voir déjà ce soir à partir de 20h55 sur France 5 avec cette soirée spéciale « J'irai dormir chez vous ». On part au Cap-Vert et c'est absolument réjouissant. Merci beaucoup, Antoine de Maximy, d'avoir été avec nous ce matin.
Est-ce qu'on peut dormir chez vous, Antoine?
Ah oui, est-ce qu'on peut dormir chez vous, Antoine?
Alors, figurez-vous qu'on a fait deux loteries, deux tirages au sort parmi tous les contributeurs. Il y en a un, c'était pour venir faire la fête. C'était vendredi dernier, j'avais 150 personnes dans mon jardin.
C'est cool.
Et il y a un tirage de 10 personnes qui a été fait hier. Et il y a 10 personnes qui seront invitées à dormir à la maison. Vous voyez,
on vient aussi, on sera une quinzaine.
Ah, voilà, il y a le même soir.
Oui, on va faire ça en groupe, ça va être super sympa. Bon, on passe ça par terre, hein, c'est pas un hôtel ici.
D'accord. Merci beaucoup, Antoine de Maximy. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Renaud Capuçon, avant de retrouver la carte postale mythomane de Ben H, je vous propose une nouvelle pause musicale avec Ronan Luce qui chante au début sur Europe 1.
Est-ce qu'on peut reprendre au début? Reboire le vin que l'on avait bu. Moi j'aimerais que l'on se rendorme dans un lit à mémoire de forme et que l'on se réveille pareil. Est-ce qu'on peut reprendre mine de rien? Comme à la page cornée du bouquin qu'on avait refermé la veille en luttant contre le sommeil. Est-ce que jusqu'au mot fin on tient? Je sais bien l'existence suit le même unique sens que l'eau. Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler tantôt? Est-ce qu'on peut reprendre à la source? Poser les pierres qui changent sa course, inonder un nouveau décor. Va savoir ce qui peut éclore, des plantes au bord du fleuve, toutes neuves. Je sais l'incandescence des cœurs et par essence fragiles. Mais referais-tu ce baiser offert autant que voler fébrile? Est-ce qu'on peut reprendre au début? Est-ce qu'on peut reprendre au début?
Renan Luce sur Europe 1 dans un instant. L'humoriste Ben H vient nous raconter son week-end. Un faux week-end, j'ai l'impression. À suivre sur Europe 1.
9h, 11h, le ouais, club de l'été vraiment, mais... sur Europe 1. Eva Rock.
Il est 9h51 sur Europe 1 et jusqu'à 11h, c'est votre club de l'été. Notre invité est Renaud Capuçon. Vous allez nous quitter dans quelques minutes, Renaud Capuçon. Mais avant, on va accueillir Ben H. Bonjour Ben H. Comment
ça va? Ben, ça va bien.
Vous nous faites voyager tout l'été avec ces cartes postales totalement mythomanes, hein, on va être clair. Et vous revenez d'où aujourd'hui?
Bonjour Eva, bonjour le club, bonjour la France, bonjour Renaud Capuçon. Eh bien, j'ai voyagé et vu que vous receviez Renaud Capuçon ce matin, je me suis fait pour vous le Renaud Capuçon Summer Tour. Soit un périple touristique et musical sur les traces du violoniste. Un voyage idéal pour tous les amoureux de musique classique en général, mais aussi pour tous les amoureux de Renaud Capuçon en particulier. Ma mère, par exemple, elle ne touche pas une bille en violon, mais visiblement, le Renaud Capuçon, ça s'écoute aussi avec les yeux. Comme ma mère, elle a dit, si je l'avais devant moi, c'est pas avec son violon qu'il jouerait. Elle a l'air malaisante comme ça, ma mère, mais elle vous aime bien, Renaud.
Mais alors, en quoi consiste le Renaud Capuçon Summer Tour? C'est quoi l'itinéraire?
Alors, il s'agit d'un voyage guidé qui commence à Chambéry, ville où notre invité a grandi, et ça va jusqu'à Aix-en-Provence, où il a créé le Festival de Pâques, un célèbre festival de musique classique. L'ensemble du périple se faisant évidemment avec les plus grandes interprétations de Monsieur Capuçon dans un casque, un Brahms, Schubert, Beethoven. Et je peux vous dire que ça en fait pas mal de grandes musiques car la route est très longue jusqu'à Aix-en-Provence.
Enfin ouais, de Chambéry à Aix-en-Provence, c'est pas si loin.
C'est vrai, Eva, mais sur la route entre Chambéry et Aix-en-Provence, on fait une petite escale à Berlin.
Ah, oui.
Et sur la route, il y a un léger crochet par Tokyo.
D'accord.
Ça rajoute quelques bornes, il faut aimer l'autocar. Parce qu'en fait, l'idée de ce voyage organisé, c'est vraiment de s'arrêter partout où Renaud Capuçon a joué du violon. Et ça tombe bien parce qu'il en a joué partout, de New York à Moscou, en passant par Munich et même Dunkerque. Quand tu suis Renaud Capuçon, t'es content d'avoir des prises dans l'autocar.
Donc résultat, c'est un voyage dans le monde entier.
Bah, tout à fait, ouais. Tout à fait. Même si le tour opérateur en fait un peu trop, je trouve, quand c'est à la Philharmonie de Berlin qu'on est, c'est magnifique, on est hyper content d'être là. Mais quand c'est sur une aire de repos de l'autoroute A7, j'ai beau aimer le violon, je comprends pas la pause musicale. Alors selon le guide qui nous accompagnait, Renaud Capuçon aurait sorti son Stradivarius ici même été 2009 sur la route des vacances. Il aurait repris l'air du petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien à côté des toilettes pour touristes pendant que Laurence Ferrari préparait des jambons beurre sur une table à pique-nique.
Alors, on a l'image là.
La magie du quotidien.
C'est magnifique.
Alors info ou un texte, on vous demandera, peu importe. Mais même les moins mélomanes vous le diront, c'est plus difficile d'apprécier un air de violon quand il s'accompagne d'une chasse d'eau. Alors en revanche, j'ouvre une parenthèse musicale, si vous me le permettez, Eva.
Allez-y.
La chasse d'eau, en revanche, se marie très bien avec n'importe quel tube de l'été. Faites le test à la maison avec un titre des Magic System, on a même l'impression que ces deux sons étaient faits pour se rencontrer.
On
je referme la parenthèse.
Mais
c'est votre choix.
Oh, c'est moche.
C'est très moche. C'est gratuit en plus.
Ouais, on va revenir à votre voyage. Ben Mach,
s'il vous plaît.
Est-ce qu'il est accessible ce Renault Capuçon Summer Tour? Je trouve que c'est une excellente idée en fait.
Je vous cache pas que le Chambéry-Tokyo, même en Ouibus, ça reste un gros budget. Alors si vous êtes un peu juste, moi j'ai deux solutions. Alors soit un, faites comme moi, vous allez voir votre banquier et pour Renault Capuçon, vous sortez les violons. Ou alors, moins international, moins prestigieux peut-être, vous avez le Larousseau Summer Tour. Là, on est sur une formule camping et concert dans le Loir-et-Cher. C'est sur deux jours avec un supplément merguez et c'est très cool aussi. Alors, bien sûr, tout ça, c'était du grand n'importe quoi. Mais si tout ça, c'était vrai, ça pourrait être vachement sympa. Bonne émission.
Merci, Ménage. Je trouve que c'est une excellente idée.
Ouais, on peut le faire,
partir
ça.
Sur les traces de Renaud Capuçon.
Avec des produits dérivés, Stradivarius à 19 euros, dédicacé.
On fait exploser le bilan carbone, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Vous traversez combien de pays par an, Renaud Capuçon?
J'ai pas compté. Je voyage beaucoup, mais comme tous les musiciens qui jouent un peu, pas que en France.
Oui.
Et c'est passionnant. Mais je dois dire que j'aime l'été parce qu'il y a beaucoup de festivals en France et je découvre plein d'endroits que je ne connaissais pas. Et on se rend compte à quel point notre pays est vraiment sublime.
Toutes les dates de vos concerts sont à retrouver sur www.renaudcapuçon.com. On va également les indiquer sur notre site europe1.fr. On entend votre musique. On les indiquera aussi sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Renaud Capuçon, merci infiniment de nous avoir accompagnés lors de cette première heure. J'encourage les auditeurs à écouter votre album Cinéma. C'est une plongée dans la musique des chefs-d'œuvre du 7e art. C'est marrant parce qu'on voyage aussi dans le cinéma grâce à vous, rien qu'en écoutant. Et puis je vous encourage évidemment à venir vous voir en concert parce qu'il n'y a rien de mieux que la musique.
Mais il y aura, si j'ai 20 secondes, un summer tour un peu en septembre parce que j'avais, au moment de, l'incendie de Notre-Dame, j'avais dit que je donnerais des concerts dans la cathédrale. Ça a mis du temps à s'organiser. Et il y aura 6 dates dans des villes que je vais dévoiler bientôt. 6 concerts que je vais offrir à des cathédrales pour des fonds pour Notre-Dame et pour ces églises en question. Et ça sera en septembre-octobre et ça va être annoncé bientôt. Donc ça sera un
ben
peu...
Nash, vous êtes obligé d'aller faire le sort de tour avec Renaud Capuçon. Est-ce que vous savez à quoi ressemblera votre prochain projet ? Est-ce qu'il y a un cinéma 2, par exemple, qui pourrait sortir ?
C'est une bonne question. Il est très probable.
Il est très probable.
Ouais. Bon, je pense qu'il y a. J'ai ouvert une sorte de boîte de Pandore où j'ai l'impression qu'il y a tellement, tellement de, D'abord, il y a tous mes potes qui me disent mais t'as pas enregistré ça, t'as pas. De toutes les générations, donc en fonction des films et des années. Et puis, il y a des musiques extraordinaires.
Vous étiez venu au mois d'octobre nous en parler de cet album et je me souviens vous avoir demandé si vous aviez envie de faire une musique de film et vous aviez dit je suis ouvert à toute proposition. Est-ce que la proposition est arrivée ?
Non, c'est pas arrivé.
Mais on relance l'appel.
On relance l'appel.
Non, mais vous savez, quand on fait des appels, c'est mal barré en général. Donc, on ne veut pas d'appel. Non.
C'est comme quand on veut être ministre et qu'on dit je suis disponible pour être ministre. Encore merci d'avoir été avec
merci
nous
vous,
ce matin. On vous souhaite un très très bel été. Nous, on se retrouve dans un instant avec Lise Pressac et Olivier Pouls.
Et Rondo Veneziano.
À tout de suite sur Europe 1. Il est 10h, vous êtes sur Europe 1. Il est temps de faire un petit point sur l'actualité avec vous, Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Eva, bonjour à tous. On l'a appris il y a moins d'une heure, Vincent Lambert est mort. Yasmina Katou, vous êtes devant le CHU de Reims où son médecin avait entamé il y a un peu plus d'une semaine la procédure d'arrêt des soins.
Oui, et c'est donc la fin d'une agonie qui aura duré 8 jours. 8 jours durant lesquels Vincent Lambert n'était plus nourri et hydraté. Vincent Lambert s'est éteint à exactement 8h24 ici au CHU de Reims. Le décès a été annoncé par plusieurs membres de sa famille. Ici, devant l'hôpital, la sécurité a été renforcée. 3 policiers sont présents. Alors depuis l'arrêt des soins, les deux clans opposés de la famille Lambert se sont relayés à son chevet sans jamais se croiser. 2 chambres avaient été mises à disposition pour leur permettre de veiller en permanence sans jamais se voir. Une famille déchirée par une bataille judiciaire qui dure depuis plus de 6 ans. Vincent Lambert, tétraplégique, s'était retrouvé dans un état végétatif il y a presque 11 ans après un accident de la route. Il était devenu le symbole du débat sur la fin de vie en France.
Et Yasmina Katou à Reims pour Europe 1. Les uns demandent sa démission, les autres en appellent à la déontologue de l'Assemblée. Ce matin encore, François de Rugy au cœur de l'actualité, l'ancien président de l'Assemblée nationale épinglé par Mediapart pour de fastueux dîner, travail de représentation, a-t-il dit. L'Élysée lui maintient sa confiance, tout comme sa colocataire au ministère de la Transition écologique, Brune Poirson, invitée d'Europe 1 ce matin.
Je travaille auprès de François de Rugy depuis près d'un an. Ouais. Je ne peux pas douter de son honnêteté. Maintenant, comme François de Rugy l'a dit lui-même d'ailleurs, et comme lui, moi je peux tout à fait comprendre que ces images, elles puissent vraiment interpeller les Français. François de Rugy l'a dit, les dîners qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale, ont eu lieu dans le cadre de ses fonctions de président de l'Assemblée nationale. Et comme il l'a dit lui-même d'ailleurs aussi, il se tient tout à fait à disposition de la déontologue de l'Assemblée nationale pour répondre à d'éventuelles questions.
Donc pour l'instant, François de Rugy est là et vous n'allez pas prendre sa place ?
Écoutez, non, c'est absolument pas du tout...
C'est pas le sujet.
Non, c'est pas le sujet. Non.
La secrétaire d'État à la transition écologique invitée ce matin de Pierre de Villeneuve sur Europe 1, François de Rugy, qui se sépare par ailleurs de sa directrice de cabinet, l'ancienne préfète des Pays de la Loire, accusée par Mediapart d'avoir conservé un logement HLM à Paris pendant 12 ans, et ce, alors qu'elle n'habitait plus dans la capitale. Les précisions ce matin de Bercy sur l'effort demandé aux entreprises, plus de 1,3 milliard d'euros d'économies seront réalisées en 2020. Grâce à une réduction des niches fiscales pour les sociétés, à une baisse d'impôts plus lente que prévue pour les grands groupes. L'évolution de l'agriculture bio en question. Son comité national se réunit aujourd'hui et tranchera peut-être sur l'utilisation des serres chauffées. Un non-sens écologique pour les uns, un moyen de répondre à la demande pour les autres, des visions opposées et une décision devenue indispensable pour Europe 1 lors d'Autriche.
Il existe aujourd'hui une quarantaine de serres chauffées qui abritent des tomates ou des concombres bio. Mais les projets se multiplient un peu partout en France. De cette manière, on obtient des tomates hors saison dès la fin du mois de mars. Ceux qui défendent cette méthode de production expliquent que cela permet d'avoir des produits français contrairement aux tomates qui viennent d'Espagne, par exemple. Mais pour d'autres agriculteurs, cette méthode ne respecte pas l'esprit du bio et pendant l'été, ces tomates et concombres produits sous serre vont concurrencer les autres tomates bio qui auront poussé naturellement, explique Arnaud Daligo, producteur maraîcher en Ille-et-Vilaine.
On aura les deux tomates qui seront présentes sur le marché et là on aura une chute vertigineuse des prix. Certains diront ça sera à l'avantage des consommateurs, mais derrière on aura un secteur qui sera en crise. On aura des producteurs qui ne vivront pas de leur métier. C'est déjà le cas aujourd'hui en tomates industrielles. On n'a absolument pas envie que ce type de schéma s'applique aux producteurs bio.
Et selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement, une tomate produite en France sous serre chauffée émet 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate produite naturellement.
Les précisions de l'Ordre d'Autriche pour Europe 1. Deux autres rendez-vous du jour. Comité d'entreprise extraordinaire de Conforama. Le groupe doit dévoiler les modalités du plan social annoncé au début du mois. 32 magasins fermés, 1900 postes supprimés. Et puis la fin du procès des suicides à France Télécom. Dernière plaidoirie et parole aux prévenus. Hier, c'était la moyenne. Aujourd'hui, c'est la vraie montagne. Sur le Tour de France, 4000 mètres de dénivelé positif entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles, 160 petits kilomètres, mais 7 difficultés, dont un véritable mur à l'arrivée, rallongé en plus d'un kilomètre. Ça promet du beau spectacle pour le consultant européen Thomas Veuclair.
Une belle étape, oui, ça c'est sûr. Même si, admettons que la course soit un petit peu neutralisée par les grosses équipes, on aura un beau final de toute façon. Et on n'est pas à l'abri, j'y crois pas trop, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une belle étape avec des manœuvres de favoris avant le dernier col. Mais ça, je pense que ça sera plutôt une élimination par l'arrière jusqu'à la planche des Belles-Filles. Il y a un kilomètre supplémentaire avec, où la pente va atteindre à certains endroits 24% d'inclinaison, c'est énorme. C'est plus que le mur de Huy de la Flèche Wallonne, pour une indication. Mais je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose sur le nom du vainqueur, qu'on ait rajouté ce kilomètre, mais ça rajoute de la difficulté, ça c'est sûr.
Le consultant européen Thomas Veuclair avec Axel May, 6e étape du Tour de France à suivre en fil rouge sur Europe 1.
Merci Marion, on se retrouve à 10h58 pour un nouveau point sur l'actualité.
Respirez, c'est l'été.
On est bien sur Europe 1.
Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été.
Mais oui, respirer, mais enfin respirer en hiver aussi, hein, parce que sinon ça va être un peu gênant. C'est la deuxième heure de ce club de l'été sur Europe 1, hein, toujours en direct et jusqu'à 11h pour partager des idées de balade à travers la France et faire les malins derrière les fourneaux, grâce notamment à Olivier Pouls. Le violoniste Renaud Capuçon était avec nous il y a quelques instants. Nous avons choisi de partir dans sa région natale, en l'occurrence la Savoie. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Si vous avez notamment des questions pour Olivier Pouls, il vous répondra. Enfin, j'espère, vous en avez beaucoup, hein, Olivier. Vous allez voir. Hein. Petite interrogation surprise à la fin de l'émission. Lise Pressac, quel site on va découvrir en Savoie ?
On va aller au château de Menton-Saint-Bernard. Donc c'est à 10 km d'Annecy. C'est un château du XIIe siècle qui ressemble à un château de conte de fées.
Ah, ou le genre où la Belle au bois dormant aurait
exactement.
Pu... C'est vrai ?
Vous,
oui.
Oui, tout à fait.
Oui, bah, ouais. Vous dites ça parce que je suis un peu endormie ou non ?
Parce que vous êtes belle.
Parce que vous êtes la belle.
D'accord.
Voilà,
j'attends toujours le prince. Olivier, nous aurons droit à une recette et à un vrai faux culinaire. Mais qu'en est-il ?
On le redonne, le vrai faux ?
Ah oui, si vous voulez. Allez-y.
Ben, ça concerne les œufs. Vous connaissez cette astuce de grand-mère pour vérifier si un œuf est frais ou s'il ne l'est pas. On le plonge dans un verre d'eau.
Alors, vrai ou faux, on attend la fin de l'émission pour savoir tout ça.
Et surtout pourquoi.
Exactement. À tout de suite.
Le club de l'été sur Europe 1.
9h, 11h.
Eva Rock.
Sauf qu'avant de partir en Savoie, je vous propose un petit blind test à partir des musiques de films interprétées par Renaud Capuçon.
Oh, la,
la
pression.
Je vous avais prévenu en début d'émission. Alors vous ne criez pas quand vous avez la réponse. Ben H est resté avec nous, il va pouvoir jouer.
Bien sûr.
Vous ne criez pas parce que sinon vous allez tuer les tympans de nos auditeurs. Donc vous dites le nom sans hurler. D'accord ? Vous êtes...
D'accord.
Bon, premier titre à retrouver sur l'album du violoniste intitulé Cinéma. C'est facile, on en a déjà parlé hier. On va voir si vous êtes attentif.
Out of Africa.
Voilà, merci l'espresso.
On en a parlé tout à l'heure.
Eh oui, John Barry, un drame de 1985 avec Meryl Streep
magnifique
et Robert Redford, un magnifique film. Allez, ça aussi c'est facile.
Bah c'est Cinéma Paradiso.
Non.
Ah
non, c'est Ennio Morricone, non ?
Non. C'est pas Ennio Morricone, c'est un compositeur français. Ben H, c'est que des films, hein.
Ouais. Ouais ouais, je suis dessus.
Je l'ai pas. C'est Été 42. Musique, oui. Michel Legrand, c'est un film de 1971 signé Robert Mulligan. On l'a beaucoup entendu au moment du
très
décès de Michel
aussi.
Legrand.
Ouais.
Très très beau film. Allez, on change totalement de registre.
Ah ben le grand blond.
Ah ben oui.
Ah oui.
Ah, petit jingle qui nous donne un point. Un point pour Olivier Pouce, Le Grand Blond avec une chaussure noire, réalisateur Yves Robert, scénario Francis Weber et dans le rôle principal Pierre Richard avec la musique de Vladimir Kosma, c'était en 1972 déjà. Voilà. Ah. Alors pour terminer, on va avec un premier morceau. Vous l'écoutez et puis après on entendra parce qu'il y a une voix aussi. C'est un film de 1988. Vous l'avez tous vu. Si vous étiez né Ben H.
Je venais de naître.
Bagdad Café.
Ah bah vous avez pas mis Colin New.
Mais
oui, voilà.
Mais si, parce que écoutez le morceau.
Ah bah voilà.
Et dites-moi qui chante.
Ah je l'ai su.
Dans la version de Renaud Capuçon, ouais, hein, je vous parle.
Non.
Cette version que vous entendez, c'est la version de Renaud Capuçon avec une chanteuse.
Ah c'est pas Nolwenn Leroy.
Non. Ben H. C'est Nolwenn Leroy.
Ah oui.
On écoute un petit bout.
Sublime. Je crois que je vais en faire un de mes disques de l'été.
Eh bien, c'est ce que j'allais vous dire. Ça s'appelle Cinéma. C'est absolument magnifique.
C'est
vous voyagez à la fois dans toute l'histoire du cinéma et dans la musique classique des grands compositeurs de musique. Il n'y avait rien à gagner hein, pour
Qu'est-ce
ce blind
test. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question.
Vous avez gagné le droit de revenir demain pour terminer la première semaine du club de l'été. D'accord ?
D'accord.
On part au frais. Ben H, vous restez avec nous ?
Avec plaisir.
On part en Savoie, la montagne, un château et quelques mets gastronomiques encore. Ça m'étonne. Tiens, à tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. Eva Rock.
Nous sommes toujours en direct, il est 10h11 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1 avec Olivier Pouls et Lise Pressac. Ben H est resté avec nous, on va vous embarquer en Savoie. Ça va Ben H ?
Ben oui, ça va.
Ah oui, d'accord, je croyais qu'il y avait un petit problème.
Non, tout va
bien, d'accord. Avant de partir en Savoie, Lise, vous nous offrez un journal de la culture pour des bons plans sortis.
Oui.
Et on commence avec un festival de marionnettes.
Oui, direction la ville de Bernay, ses alentours, c'est dans l'heure pour la 20e édition du festival de marionnettes qui accueille une vingtaine de compagnies françaises et étrangères. Une centaine de représentations est prévue pendant une semaine et 12 000 personnes sont attendues.
C'est énorme, ouais.
Et pas que des enfants, voilà, c'est pour tout le monde le festival de marionnettes.
Il n'y a pas que Guignol et Gnafron.
C'est dépassé. Je ne sais pas si ça existe encore.
J'espère pas. En tout cas, c'est jusqu'à samedi à Bernay et ses environs, c'est dans l'heure.
Alors après les marionnettes, Lise, vous nous emmenez écouter de la musique avec des oiseaux.
Oui, dans le plus grand parc ornithologique d'Europe. Europe nous met dans l'ambiance. Le parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, c'est dans l'Ain. Une réserve naturelle de 350 hectares qui accueille 28 000 oiseaux, mais aussi des chanteurs et des musiciens pendant quelques jours.
Ça va pas les perturber les piafs d'entendre
Je pense qu'ils aiment
non
ça.
Ah
oui.
Bon, d'accord.
Ils sont habitués, c'est la 10e édition du festival Les Musicales. Il faut imaginer une scène installée dans un amphithéâtre donc en plein air, au bord d'un étang. Des artistes qui se produisent devant un public limité, forcément, à 1000 personnes, mais les oiseaux c'est illimité, il y a des milliers de personnes.
C'est génial.
Un festival de musique qui a été fait pour vous deux, Eva et Olivier, vous allez comprendre pourquoi, puisque ce soir vous écouterez le bassiste de génie Marcus Miller.
Ça c'est pour moi.
Peut-être que demain on mange ou on boit, c'est ça ?
Non, autre chose, vous allez voir Olivier.
Je sais pourquoi, c'est pour
ça
Olivier.
Va vous plaire.
Et ça c'est ce soir. Hein.
Ça c'est ce soir, Eva, donc voilà, vous pouvez prendre un train et y aller. Et demain soir, peut-être que vous verrez un vautour voler au-dessus de la scène où se produira Brigitte.
Le réflexe, ça revient d'Olivier Pousse quand il entend Brigitte, tout d'un coup c'est un autre homme. Il vous est transformé.
Non mais il faut rappeler que Brigitte
qui était venue, l'année
participer
dernière
au club de l'été saison 1 et on avait passé un très bon moment. Exactement,
ça m'avait beaucoup en live.
C'est à Villars-les-Dombes dans l'Ain.
Donc SNCF.
Voilà. Est-ce que vous pouvez prendre deux billets ?
C'est au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes.
Et absolument
voilà,
pas de soirée piaf de prévu.
Jusqu'à demain soir. Non.
Non,
désolé. Ben
allez, autre cadre d'exception pour écouter de la musique, c'est le lac d'Aix-les-Bains.
Oui, 4 jours de concert au bord du lac d'Aix-les-Bains. Le festival Musilac commence aujourd'hui. Pour cette 18e édition, 50 groupes vont se produire chaque jour de 15h à 2h du matin. Parmi eux, Clara Luciani, Morcheba, Dionysos et Kimber Rose, qu'on aime beaucoup aussi.
Mais
dans
oui.
Le club de l'été. Elle sera demain, vendredi, sur la scène lac à 17h30.
À se demander si tous les invités qu'on a eus l'an dernier auraient pas eu une année pleine de succès et
moi je
se
pense que ça
porte les
chances.
Oui,
parce
qu'elle est venue nous voir aussi.
Mais oui, aussi.
Au mois d'août.
Et samedi sur cette même scène à 22h45, une autre chanteuse qu'on aime beaucoup, Jane, elle n'est pas encore venue, mais.
Mais ça,
elle vient quand elle veut.
Thank you.
Et comme chaque année, le festival s'associe à trois associations. Il y a Zikomatic qui œuvre en faveur de l'accessibilité des personnes en situation de handicap, Culture du Cœur qui offre des places à des personnes en difficulté et l'association Villazik qui va permettre à des enfants et des adultes en situation de handicap de venir assister au concert. Voilà, c'est une belle cause et beaucoup de belles musiques. C'est le festival Musilac, c'est jusqu'à dimanche à Aix-les-Bains.
C'est plein de bons plans. Vous choisissez quelle destination, Ben H, hein?
La soirée avec les oiseaux.
La soirée avec les oiseaux. Évidemment. Alors, vous allez avoir, alors Olivier Pouls, trois places sur la SNCF.
D'accord.
Y aller.
Mais je crois que je vais y aller tout seul quand même.
S'il vous plaît.
Non, mais on vous laissera tranquille à un moment donné. On vous arrêtera de vous suivre, hein, vous voyez. Lise et Marcus Miller, évidemment.
Évidemment, Marcus Miller au milieu des oiseaux.
Évidemment. Merci beaucoup pour ce journal de la culture. On va poursuivre en musique d'ailleurs. Hein. Alors, avec un groupe français qui, depuis 2016, fait danser les foules partout dans le monde, Kungs est sur Europe 1 avec This Girl.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Eva Rock.
Sur Europe 1 avec This Girl, c'était un de son premier tube. Dans un instant, départ pour la Savoie et un château dans lequel la Belle au bois dormant aurait pu vivre. A tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend.
Avec le club de l'été sur Europe 1.
Il est 10h20 et nous sommes toujours en direct sur Europe 1 pour ce club de l'été, épisode 4 de la saison 2. Vous êtes les invités de ce club, vous êtes les bienvenus tous les matins de 9h à 11h. On attend d'ailleurs vos coups de cœur, vos réactions, mais aussi vos questions. Si vous voulez défier Olivier Pouls, hein, vous pouvez aussi, c'est sur Twitter que ça se passe, avec le hashtag Europe 1, vous lui envoyez des questions très très méchantes, enfin très difficiles à répondre, quoi, pas méchantes à son égard, évidemment.
Bah, j'espère bien.
Est-ce que vous connaissez la Savoie, Olivier Élisée Benach?
Bien sûr.
Oui.
Bien sûr.
Mais alors moi, c'est plutôt la Savoie, station de ski, quoi. Voilà. Non, mais vous voyez, oui, c'est un peu ça. Oui,
non, c'est pas son truc.
C'est pas mon truc, mais je vous expliquerai, Benach.
Okay, voilà.
Lise, pourtant, vous avez choisi un lieu de princesse, et ça ne m'étonne pas de vous en Savoie.
Ah oui, d'accord.
Bah, vous êtes un peu princesse.
Oh bon, vous trouvez?
Non, mais dans le bon sens du terme.
Ah, très bien. On fera le débat un autre jour, mais moi, je vous emmène dans un endroit qui semble tout droit sorti d'un conte. C'est le château de Menton-Saint-Bernard, c'est donc en Haute-Savoie, on est à 10 km d'Annecy. Un château du 12e siècle, habité depuis plus de 1000 ans par la même famille.
Ah bon?
Nous sommes en ligne avec Dorian Antoine, qui est responsable de la valorisation culturelle du site. Bonjour Dorian.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors décrivez-nous ce lieu incroyable qui offre déjà pour commencer une vue un panoramique sur le lac d'Annecy.
Absolument, nous sommes donc sur un rocher à 600 mètres d'altitude, ce qui fait que nous dominons autant le lac, le relief. Et là, vous avez à l'origine une forteresse qui va être construite dès la fin du XIIe siècle pour petit à petit être remaniée en une résidence nobiliaire.
Alors, comment est-ce qu'on se repère dans ce méandre de pièces ? Parce qu'il y a plus d'une centaine de pièces dans ce château.
Alors, effectivement, déjà, le plus compliqué, c'est de savoir à quelle période a été construite telle et telle pièce, puisque nous avons une construction de la fin du XIIe, remaniée au XVe, améliorée au XVIIe, revue 18e et d'accord. complètement remodelée au XIXe.
Il s'en est passé des choses dans le château, là, si je comprends bien.
Absolument. Mais par contre, la particularité, c'est que tout s'articule autour d'une seule famille, la famille de Menton, qui, dès la fin du XIIe siècle, va déjà entreprendre la construction de ce château.
Dorian Antoine, est-ce qu'il y a des fantômes dans le château ?
Alors, personnellement, j'en ai jamais croisé, mais j'ai envie de vous dire, faisons vivre les légendes et pourquoi pas.
D'accord.
Et alors, avec 100 pièces, vous arrivez vous-même à vous repérer ? Il faut combien de temps pour ne plus se perdre dans le château ?
Ah, le problème, ce n'est pas trop de se perdre ou pas, c'est arriver à se dire, si je pars à tel endroit, où est-ce que je vais atterrir à la fin ? Vous avez bon nombre de dédales et de pièces en enfilade, ce qui fait que parfois vous dites, mais où je suis ? Mais bon, avec le temps, on arrive toujours à regarder par la fenêtre avec cette vue exceptionnelle et à pouvoir savoir un peu dans quel secteur nous sommes.
Alors, le château de Menton-Saint-Bernard, où vous avez la chance de travailler, aurait inspiré Walt Disney qui était en villégiature dans la région. Est-ce que c'est vrai cette histoire ? Il s'en serait inspiré pour le fameux château de la Belle au Bois Dormant ?
Alors, il est vrai que lorsque l'on voit le château avec tous ces petits clochetons, toutes ces petites tourelles qui sont découpées...
Ah oui, c'est surprenant, hein. On a vu les photos, c'est surprenant.
Côté...
Oui.
Absolument, il y a un côté tout à fait féerique. Ce que l'on sait, c'est que Walt Disney venait en vacances avec son frère Roy, en villégiature dans les Alpes, et s'est arrêté à Menton et aux alentours. Vraisemblablement, en prenant le bateau, il a eu ce regard et ce coup de cœur pour ce château. Or, étant donné qu'il faisait le tour des Alpes, il est vrai que si vous allez dans d'autres châteaux, certains ont un élément ou plusieurs qui sont intéressants. Donc, il est possible que Walt Disney s'en serait inspiré, mais avec certainement d'autres châteaux.
Dorian Antoine, votre bureau est dans le château ? Votre bureau où vous travaillez tous les jours ?
Presque. Disons que je suis dans l'enceinte du château, mais on a la chance d'avoir des dépendances qui sont peut-être plus fonctionnelles, notamment lorsque vous avez besoin d'avoir un réseau, ne serait-ce que pour vous parler téléphoniquement aujourd'hui,
oui.
Pour avoir un Wi-Fi à peu près intéressant pour travailler.
Pas de pigeon voyageur, dit Benoche. Est-ce qu'on peut le louer le temps d'un mariage, par exemple ?
C'est pas alors, vous avez des projets,
c'est pas du tout personnel comme question.
Les tarifs, vous êtes très bien.
Si le mariage n'est pas en projet, forcément, vous aurez tous les ans un anniversaire en projet. Donc
oui.
Là, vous serez toujours les bienvenus. Nous avons une dépendance qui est dans l'enceinte, qui domine complètement le lac, qui peut être louée en fin de semaine pour des mariages, anniversaires, ou même pour des séminaires, cocktails en semaine. Et donc là, c'est un site qui peut accueillir jusqu'à 120 personnes, dominant complètement entre lac et relief.
C'est parfait, j'attends le Bristol d'Eva maintenant. On connaît l'adresse pour son prochain anniversaire.
On va faire un séminaire de l'équipe du Club de l'été. On est
c'est
moins de 120. Hein. Vous verrez, ça fera pas trop de frais.
Et Dorian, il faut aussi nous parler de cette magnifique bibliothèque. Elle est juste incroyable et vous avez 12 000 volumes, dont des choses très très rares.
Voilà, une des pièces emblématiques qui est inclue dans le circuit de visite, effectivement la bibliothèque qui regroupe un peu plus de 12 000 livres, tous antérieurs à la Révolution de 1789, avec parmi les pépites, il y a notamment l'édition originale de l'encyclopédie Diderot, d'Alembert, en intégralité. Et les ouvrages visibles les plus anciens remontent au milieu du XVe siècle. Sont les fameux incunables, les premiers qui ont pu être imprimés suite à Gutenberg notamment.
Mais alors j'imagine qu'ils sont protégés et qu'on ne peut pas les toucher, tous ces ouvrages.
Alors, contrairement à bien des images d'Épinal, quand vous prenez un livre, ils ne s'effritent pas, ils sont en parfait état.
D'accord.
Cependant, pour des raisons de sécurité et de conservation, effectivement, ils ne peuvent être touchés. C'est pourquoi nous avons installé des vitrines pour que le visiteur puisse profiter de certaines planches iconographiques ou certains textes qui sont changés régulièrement.
Merci beaucoup Dorian Antoine d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le responsable de la valorisation culturelle de ce site incroyable et on a très très envie de venir visiter
oui.
le château et
on,
de visiter cette bibliothèque.
On va prendre date
cas.
Dorian. Le château de Menton-Saint-Bernard,
eh ben,
c'est en Haute-Savoie, donc on est près d'Annecy.
Merci.
Et pour l'anniversaire d'Eva, on vous envoie la carte.
Voilà.
Merci infiniment Dorian Antoine. Toutes les infos sont à retrouver sur le site d'Europe 1. Élise, vous postez tout ça évidemment sur votre compte Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier Pouls, on va parler
parler gastronomie dans un instant et vous nous offrirez en fin d'émission une recette à faire au barbecue. Et puis vous avez reçu quelques questions d'auditeurs. Vous allez voir, accrochez-vous.
Et on va parler des œufs.
Les défis culinaires, c'est sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
C'est la suite du Europe 1 Club de l'été en direct avec mes acolytes Lise Pressac, Olivier Pouls, Ben H est resté avec nous.
Oui.
On va partir dans quelques instants en Savoie, Olivier Pouls. Mais avant, on va commencer par votre fact-checking culinaire avec cette question extrêmement pratique. Il faut plonger un œuf dans l'eau pour savoir s'il est frais, vrai ou faux.
Alors,
non.
Alors, je sais que Lise le fait.
Mais oui, je le pratique, moi. Bah oui, si ça reste à la surface, c'est pas bon. Et si ça coule, c'est bon.
Eh bien, vous avez tout vrai.
Ah.
Eh oui, ça marche. C'est un test qui est très fiable. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui, selon vous, se passe ?
Une histoire de gaz, sans doute. Enfin...
Alors, en fait, il faut savoir que dans un œuf, il y a une toute petite poche d'air qui est toute petite au départ.
Oui.
Et cette poche d'air est contenue dans la partie la plus arrondie de l'œuf.
Et on le voit quand on écale l'œuf.
Voilà. Avec le temps, en fait, un œuf n'est pas totalement hermétique. La coquille est poreuse. Alors, il y a des millions de petits trous. Et l'œuf, il va se déshydrater au fur et à mesure du temps. Il va perdre un peu de son eau. Et cette poche d'air va grandir. Et à un moment, elle va devenir suffisamment grande pour permettre à l'œuf de flotter. Et donc, ça veut dire que cet œuf, ça fait longtemps que vous l'avez... qu'il était pondu en tout cas. Et donc l'œuf qui coule vraiment, qui va directement dans le fond, il est parfait, vous pouvez y aller. Un œuf qui reste un peu entre deux eaux, c'est
oui,
le cas de le dire. Et on peut le manger, il n'y a
d'accord.
pas de souci.
Alors l'œuf
qui remonte tout de suite, et bien c'est un œuf qui malheureusement est un peu trop vieux et qu'on ne va plus manger.
Et alors, moi souvent, il m'arrive dans la même boîte d'en avoir dès qu'ils vont au fond et dès qu'ils restent à la surface.
Voilà, ça peut arriver. On rappelle aussi que pour l'œuf, sur la coquille de l'œuf, il y a un petit numéro 1. On est très attentif à ça.
1, 2, 3.
Voilà. Le zéro correspondant à l'œuf bio, c'est le meilleur. On privilégie ces œufs-là. Si on n'a pas la chance de pouvoir directement acheter des œufs à la ferme qui sont pondus sur place, on va dire, et dont on connaît la provenance, on choisit plutôt les zéros, voire le 1, et on évite le 3. C'est de la poule en batterie, et forcément, les œufs sont de moins bonne qualité.
En régie, Anne Le Gall me dit « J'ai un moyen mémotechnique pour me souvenir de l'histoire de l'œuf dans l'eau. Œuf qui coule, on consomme. » C'est et
ben
c'est.
Voilà. Ah bah exactement.
Voilà,
et
ça,
puis,
vous...
je pense qu'on peut revenir à l'œuf demain parce qu'il y a plein d'autres questions qui se posent. Et vous m'en avez posé une tout à l'heure hors antenne et on y répondra demain.
Oui. Je la garde. Je ne le dis pas tout de suite. Oui, on la garde pour demain. Oui, c'est un suspense autour d'un œuf. C'est incroyable.
C'est dingue.
Mais tout ce qu'on peut faire avec un œuf. On consomme beaucoup d'œufs en été dans la salade, dans les salades niçoises, dans les salades composées, etc. Donc, c'est très important.
Sujet capital, évidemment.
Parce que si vous faites une intoxication alimentaire à l'œuf, vous ferez moins le malin, vous allez voir.
Œuf zéro. Bio, tout ça, très bien.
Voilà, exactement. On part en Savoie ?
On part en Savoie, on va aller vers la montagne, enfin on monte dans les cimes, hein, exactement, et c'est de nouveau un chef 3 étoiles qui est avec nous, Olivier Poulsin.
Eh bien oui, je vous propose de prendre la direction de Megève et de retrouver Emmanuel Renaud, le chef du Flocon de Sel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Olivier.
Bonjour Emmanuel.
Comment ça va en Savoie ce matin ? Quel temps ?
C'est un petit peu gris, mais c'est agréable. Un petit peu gris à l'extérieur, mais agréable pour la balade. La nature est belle.
Alors, évidemment, la cuisine savoyarde, quand on y pense, c'est les bronzés. Quoi. On y est avec la tartiflette, avec la fondue au fromage, avec la raclette. Il y a pourtant une cuisine estivale aussi chez vous en Savoie en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on prépare dans votre restaurant ? Qu'est-ce qu'on va manger ce midi, par exemple ?
Ce midi, on est fermé, mais ce soir, on sera ouvert.
Ce soir, on sera ouvert.
Ça nous laisse le temps d'arriver.
Exactement, ça vous laisse le temps d'arriver. En tout cas, on a une cuisine qui est très florale en ce moment parce qu'on a une explosion de tout ce qui est fleurs, que ce soit dans les jardins. En tout cas, on a une cuisine qui est très florale en ce moment. Et puis il y a la richesse des poissons du lac. Donc on a une cuisine d'été qui est assez extraordinaire. On a une palette de jeux qui est assez fabuleuse.
Alors les poissons du lac, qu'est-ce que vous avez à votre carte ? Alors on pense à la ferra éventuellement, on pense à l'omble chevalier, poisson magnifique des profondeurs du lac.
Alors oui, il y a la ferra, il y a l'omble chevalier, il y a le gardon, il y a la perche, il y a le brochet, il y a les écrevisses du lac, il y a une belle belle diversité. Et puis après il y a 36 façons de les préparer, que ce soit cru, mi-cuit, fumé ou alors cuit entier. Non, on a une palette de possibilités qui est à l'infini.
J'avais une question, Emmanuel Renaud. Est-ce que l'altitude altère votre goût, votre palais ?
j'ai pas, ou j'ai le pas modifie tout du moins.
J'ai pas l'impression, non, non. Alors entre, comment, si on était à 6000 ou 7000 avec, oui, avec d'oxygène en moins peut-être, mais là on est à 1300 mètres d'altitude, il n'y a pas de, y a pas de variation. Alors on va jouer d'un demi-degré sur les cuissons, mais enfin après c'est notre métier de nous adapter au produit, c'est pas le produit qui s'adapte à nous.
Moi je pense que pour avoir fait notamment des dégustations de vin qu'on goûte dans la vallée ou qu'on goûte ensuite en altitude, on n'a pas tout à fait la même perception. Alors c'est peut-être pas forcément dû à la pression, c'est peut-être dû aussi à la pureté de l'air, et c'est vrai que quand on est en montagne comme ça, qu'on a cet air si pur, on respire mieux, et j'ai l'impression qu'on a les papilles peut-être un peu plus affûtées.
Ça, c'est fort probable que la respiration d'altitude nous permet d'avoir peut-être quelque chose de plus lisible. C'est certainement... Mais comme on y est toute l'année, on a la chance de ne pas voir la différence.
Et oui, c'est ça, parce que ça fait combien d'années que vous êtes à Megève, Emmanuel Renaud ?
Ça fait 21 ans qu'on s'est installé autour du Mont-Blanc.
Bon, et vous avez entendu qu'on a parlé de l'œuf frais et moins frais. Alors donnez-nous rapidement une petite recette d'œuf qu'on peut refaire facilement cet été chez
et
soi.
Et le truc qui épate les copains, vous voyez ? Vous vous dites « waouh ».
Moi, ce que j'aime bien, c'est faire quelque chose de très simple. Faire un œuf mollet, donc cuit le jaune liquide à l'intérieur. Donc 5 minutes, bien le refroidir, l'écaler. Et après, le faire comme une, le tremper dans la farine, dans l'œuf battu et la chapelure.
Donc une panure à l'anglaise en réalité.
Exactement, comme une escalope. Et après, une friteuse à 180 et on le passe dans la friteuse. Et là, à ce moment-là, on a un œuf qui est le jaune est tiède, le blanc est tiède, l'extérieur est croustillant et c'est fort agréable et c'est facile à réaliser.
Et alors au moment où on met le couteau dedans et ça fait crack au début et puis ça descend.
Ça fait crack et c'est tout liquide à l'intérieur.
Et ouais. Ça coule. Et
c'est beau et c'est bon.
Et voilà, tout simplement.
On a entendu votre téléphone sonner, Emmanuel Renaud. Je pense que c'est les gens qui réservent pour ce soir, puisque midi vous êtes fermé.
c'est la ligne de la cuisine, donc ça veut dire que là je suis quand même en préparation.
On vous laisse.
On est toujours en préparation ou en recherche ou on fait des nouveaux plats. En tout cas, on se fait plaisir.
Eh bien, peut-être qu'on vous rappellera pour savoir quel plat vous êtes en train de confectionner pour les prochaines semaines. En tout cas, merci infiniment d'avoir été avec nous. J'allais dire le flocon de sel. Vous êtes chef 3 étoiles au flocon de sel et c'est à Megève. Je ne me trompe pas, Olivier Pouls.
Non, absolument.
Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct, Emmanuel Renaud. À bientôt.
C'était un plaisir. Passez un bel été.
Merci beaucoup. Au cours de cet été, nous irons aussi à la rencontre de producteurs. Olivier, on ne fera pas que des chefs. Si vous avez des questions, si vous voulez nous dire quelle est votre Madeleine de Proust, si vous avez envie qu'on évoque un produit en particulier, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Olivier sera ravi d'abord de vous répondre et puis on sera ravi aussi d'aller chercher des petits producteurs pour vous donner quelques astuces
et
pour
voire
cuisiner.
Même de déguster les produits, qui sait.
Bien sûr,
s'il faut se sacrifier.
N'hésitez pas. 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. 2 rue des Cévennes, 75 015 Paris. On est là jusqu'au 2 août pour ma part et Alice Pressac prendra le relais pour tout le mois d'août.
Exactement.
Jusqu'au 23.
Donc ne vous arrêtez pas. Voilà. Ça marche toujours là.
Exactement. On va quitter la Savoie, mais on a encore quelques bons plans découverts pour vous. Enfin, surtout Lise. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
Mer, sable fin, transat et morito.
Eva Rock.
Non, mais.
c'est
un bon programme, cela dit.
Oui, c'est un bon programme avec modération. Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec les amis Olivier Pouce, Lise Pressac et Ben H. Lise Pressac et ses bons plans suite. Chaque jour, une thématique pour 3 lieux et ce matin, 3 lacs où se baigner. Moi, je trouve que ça fait très, très peur de se baigner dans un lac.
Enfin, ah bon, pourquoi ?
Mais je sais pas, j'ai peur. Je sais pas.
Pourtant, justement, il n'y a pas l'horizon, c'est pas infini.
Oui, mais c'est noir. J'ai l'impression que c'est très, très noir.
Mais non, pas forcément, vous verrez.
C'est mignon.
C'est la Méditerranée, je l'appelle, évidemment.
Je suis désolée, moi, c'est la mer, vous voyez, l'eau translucide. Bon, enfin, direction le Limousin, quand même, pour commencer ce tour des lacs.
Oui, au lac de Vassivière, c'est le principal plan d'eau du Limousin, qui est célèbre depuis l'après-guerre pour son tourisme populaire. Et vous verrez, Eva, c'est assez chouette. On est à 700 mètres d'altitude, au cœur du parc régional naturel de Mille Vaches. Formé en 1949 par la création d'un barrage, le lac est entouré de forêts et de landes. Vous pourrez vous détendre sur l'une des 5 plages de sable.
Ça, c'est bien.
Oui, il y a du sable. Les plages sont surveillées exceptionnellement en juillet et en août, chacune 6 après-midi sur 7. Alors, si vous êtes en famille, choisissez les grandes plages d'Offel, de Vauvais et Broussa. Vous y trouverez des espaces ombragés, il y a des tables de pique-nique, des jeux pour les enfants et vous pourrez même louer des pédalos, des canoës ou des VTT. Alors, petit plus, à Vauvais, il y a un espace de jeux aquatiques et une école de voile. Et si vous voulez être plus tranquille, vous optez plutôt pour les plages de Nergou et Pierrefitte. Température de l'eau au lac de Vassivière cet été, entre 20 et 26. C'est un peu comme la Méditerranée.
Ouais. Oui, ça c'est ça. Voilà. Ça si c'est 26, c'est mieux
si
que 20.
C'est 20,
quand même.
Ouais.
20, c'est un peu frisqué quand même. Hein.
Mais je suis sûre que ça a déjà monté.
Bon, allez. On part maintenant dans le Jura. Je sens que l'eau va être très très chaude. Pour découvrir les couleurs turquoise et émeraude du lac de Vouglan.
Exactement.
On dit Vouglan. Hein.
On dit Vouglan. Avec ses 35 km de long, il est le troisième lac artificiel de France, créé en 1968. La rivière Lin est freinée par un barrage qui offre ainsi une magnifique zone de baignade. Vous pourrez choisir l'une des trois plages du lac, la plage de la Mercantine, la plage de Belsin et la plage de Surchauffant. C'est des plages aménagées entre sable et pelouse, idéales pour les familles. Si vous en avez assez de la baignade, parce que je pense aussi aux accompagnateurs, depuis la plage de Belsin, vous pouvez aussi organiser une excursion autour du lac, du canyoning, de la spéléo, du tir à l'arc, de l'escalade ou même du VTT. Autre option depuis le port du Mai sur la plage du Surchauffant, vous pourrez faire du ski nautique ou du jet ski.
Ouais, c'est pas mal aussi. Oh, bah, ouais, c'est pas mal, c'est un peu sportif.
Pas très écolo.
Mais... Oui, non, c'est pas très écolo. Mais enfin,
j'avoue.
Voilà. Enfin, on va faire trempette dans l'est de la France.
Oui, c'est plus inattendu. Dès qu'on dit trempette, Robin, enfin,
trempette.
On
des...
C'est Eva qui vient de rentrer dans
ah, ouais, bah, je sais pas comment je vais prendre ça.
C'est pas très sympa.
On va dans une baleine qui vient de plonger, quoi. Non, mais vous êtes aimables, les copains. Hein.
Moi, j'ai rien. On va dans le département de la Marne où se trouve le plus grand lac artificiel de France. C'est le lac du Derchandcoq qui s'étend sur 4800 hectares.
Bordé c'est énorme.
Ben oui, c'est énorme, c'est le plus grand. Bordé par la nature champenoise, il a été créé pour réguler le cours de la Marne. Alors, si vous êtes en famille, vous pouvez aller vous baigner sur la plage de la presqu'île de Larzicourt. La baignade est surveillée jusqu'au 31 août. Et sinon, vous pouvez aussi vous balader autour du lac ou bien louer une barque de pêche.
Ça, c'est bien.
Pourquoi pas, pour aller pêcher ou pour
la
vous
barque,
promener.
S'il vous plaît.
Ah oui, la barque, j'aime
faire
bien
la messe dessus, non
ouais. Non, ah non, je vais pas faire la. Non, je vais pas. Faut pas pousser non plus. Mais je me sentirais plus en sécurité. Ah bah, sauf si elle se retourne.
Ah oui, bah ça c'est. Oui, bon, ça voilà. C'est après, c'est votre problème.
Oui, ouais.
Depuis la station nautique de Giffaumont-Champaubert, vous pouvez aussi emprunter le petit train du DER. C'est une visite guidée d'une heure sur la digue qui est panoramique. Vous en apprendrez plus sur les raisons de la construction de ce barrage, sur le fonctionnement du plan d'eau et sur les oiseaux qui sont rencontrés tout au long du
c'est
trajet.
C'est bien ça avec les enfants.
Exactement.
De toute façon, c'est trois bons plans avec les enfants. Hein. On rappelle les trois zones que vous venez d'évoquer, Lise. C'était dans le Limousin avec le lac de Vassivière. On est parti dans le Jura avec le lac de Vouglan. Et ensuite, on était dans l'est de la France avec le lac du Derchandcoq.
Voilà,
c'est ça,
et ça fonctionne. Exactement, et ça fonctionne aussi si vous n'êtes pas en vacances, mais si vous avez un week-end. Ou
et si vous n'avez pas d'enfants aussi.
Le problème, c'est quand vous allez dans des zones où il y a beaucoup d'enfants et que vous-même, vous n'avez pas d'enfants.
C'est l'enfer.
C'est parfois un enfer. Mais alors, pour finir, vous nous proposez de partir en Isère, Lise, pour découvrir l'application du jour.
Oui, l'Isère, c'est là qu'a été créé Telnou. Alors, ça s'écrit T-E-L-N-2-O. C'est une appli qui propose une cartographie de tous les sites patrimoniaux à proximité, alors via la géolocalisation,
très bien, ouais.
Ou bien même à partir d'un moteur de recherche si vous êtes en train de préparer vos vacances. Il y a plus de 40 000 sites et monuments, plus de 5 500 châteaux et parcs et plus de 39 000 villes et villages répertoriés. Alors, Telnou permet ainsi d'accéder à des visites guidées audio grâce à un système de bornes Bluetooth. L'appli, elle se déclenche en fait dès que vous passez dans un site. Il y a des bornes un petit peu partout. Donc, si vous avez été dans un site gratuit, ça se déclenche. Si vous avez payé votre entrée avec un musée partenaire, ça se déclenche aussi. L'application est disponible sur Android et pas pour l'instant sur Apple, mais ce sera le cas à la rentrée.
Ah, mais c'est génial. Mais ça, c'est la fin des audioguides, en fait, quand même. Hein.
Un peu, oui.
Oui, mais non, mais c'est pas, je ne dis pas que c'est bien ou mal.
Mais les musées s'adaptent, ils proposent aussi les leurs, mais c'est du contenu supplémentaire. Voilà.
Ouais, je trouve ça formidable. Donc, ça s'appelle Telnou, T-E-2-L-2-E, un seul N et deux O. Voilà. Merci beaucoup, Lise. On va évidemment retrouver toutes les références de tous les contenus qu'on évoque depuis ce matin 9h sur le site Europe 1. S'il vous manque une information, on vous le dit depuis lundi, mais vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et on vous répond dès qu'on voit votre message. On attend aussi vos cartes postales papier ou numérique.
Et on en a reçu une.
On en a reçu une. Notre première carte postale, c'est Sophie qui nous l'a envoyée déjà. C'est une carte du Berry, la Champagne berrichonne. Merci infiniment pour cette carte postale. Je vous redonne l'adresse du club pour
les
cartes postales. Ah oui, je vous le dis.
Ah bah oui.
Alors c'est pour Eva Rock, Lise Pressac, Olivier Pouls, Anne Le Gall et Anissa Haddadi. Salut le club de l'été, un petit coucou et ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison. Bisous Sophie.
Bah merci.
Merci Sophie.
Merci infiniment.
Bonne vacances.
Donc l'adresse est le 2 rue des Cévennes dans le 15e, 75 015 Paris pour les cartes postales, pour les produits à déguster, pour les bouteilles de vin à goûter avec modération et pour les bouteilles d'eau si vous trouvez qu'on est beaucoup trop alcoolisé. Merci infiniment. Dernière parenthèse musicale du jour avec de la musique pop électro suisse. Kadé Bostani chante Mind If I Stay sur Europe 1. If I stay, I blend in with the air. Oh, I've never felt this alone. Do you mind if I stay? I'm the guardian of your nights, turning.
for my lungs, 'cause I won't make it till old bones. Can you read my smoke signals? Listen to the universe. You may find an answer. Love is here and there, everywhere. Don't be scared. Listen to
aérienne de KD Bostani sur Europe 1. C'est difficile à dire comme nom de groupe, mais c'est très agréable à écouter. Avant la cuisine, pas toujours aérienne, d'Olivier Pouls.
Europe 1. Le club de l'été. Deux heures de détente ensoleillée sur Europe 1.
Nous allons bientôt refermer les portes du club de l'été pour ce jeudi. Nous serons évidemment de retour demain. Olivier Pouls, cette semaine, vous nous prouvez qu'on peut tout faire sur un barbecue. Je parle de cuisine, évidemment. Et notamment... cuisiner ça.
Les petits poissons dans l'eau nagent.
Donc, c'est une thématique chanson d'enfant cette semaine.
Mais moi j'aime bien. C'est vous qui avez des enfants et c'est moi qui aime les chansons.
Il y avait la maman poisson, le papa poisson.
Oui, oui. Ouais. J'aurais pu mettre Juliette Gréco, mais je l'avais déjà mis l'année dernière.
Eh bien, je vous félicite pour cette nouvelle trouvaille.
Voilà.
Bravo.
Vous
ça démontre
content,
que vous
Olivier
travaillez
Pouls.
Vraiment beaucoup.
Bien sûr. Alors, essayez-vous de travailler et de nous dire comment on fait cuire des poissons sur un barbecue au charbon de bois.
C'est vrai qu'avec le barbecue, on peut pratiquement tout imaginer. Et le poisson, c'est vraiment le produit de l'été. En même temps, c'est vrai que c'est... la côte de bœuf, on adore ça, mais enfin, de temps en temps, un poisson, c'est un petit peu plus léger. Y a quelques règles. D'abord, on peut pratiquement faire tous les poissons sur le barbecue. Il faut les travailler entiers. Ça, c'est vraiment la première règle. Et puis surtout, il ne faut pas enlever la peau ni les écailles. Ça, c'est très important, notamment si vous voulez faire un joli bar entier, par exemple. Vous allez le prendre, juste le faire vider, parce que les écailles, elles vont
protéger,
voilà,
en fait.
Elles ont un rôle antiadhésif, elles vont empêcher la peau de coller, vous savez, le truc, votre poisson sur la grille, puis au moment où vous voulez le retourner, il y a toute la peau qui part avec et qui reste collée sur la grille du barbecue, c'est pas très agréable. Et en fait, en gardant les écailles, vous allez faire une petite protection, et en même temps, ça va permettre une cuisson, ça va protéger à l'intérieur la chair, donc ça va être très intéressant. Donc votre poisson, simplement vidé, vous allez le remplir de tout ce que vous avez trouvé comme herbe dans le jardin, etc. Et puis là, pour le coup, vous ne le mettez vraiment pas sur des braises trop ardentes, parce qu'il ne faut pas qu'il brûle, donc ça doit cuire plutôt lentement et tranquillement. Mais vous pouvez faire des choses plus surprenantes, par exemple, au barbecue, vous pouvez faire des huîtres. Imaginez des huîtres au barbecue des moules. Oui, ça marche aussi très bien.
Vous les faites au four, les moules, enfin les moules farcies au four.
Exactement, vous nettoyez vos moules, vous allez les mettre sur votre grille, et vous allez fermer souvent les barbecues ou un couvercle, et l'avantage, c'est que les moules vont s'ouvrir s'ouvrir évidemment à la chaleur, elles vont s'ouvrir à la cuisson. Vous allez, en 3-4 minutes, vos moules seront ouvertes, elles auront pris le petit goût de fumée aussi du barbecue et c'est délicieux. Vous pouvez faire ça avec des huîtres également, ça marche très bien. L'avantage, c'est que là aussi, avec la chaleur, les huîtres, hop, elles vont s'ouvrir, il n'y aura pas besoin de les ouvrir vous-même.
Et ça vous évite un passage aux urgences de l'hôpital du coin,
voilà,
on est d'accord.
Absolument, et puis tous les poissons bleus aussi marchent très très bien sur les barbecues, on pense à
c'est
la
quoi,
sardine,
les poissons bleus,
la
voilà,
sardine,
d'accord.
Le maquereau, qui sont pour le coup des poissons très abordables, on est en pleine saison et ce sont des poissons qui ne sont pas trop chers.
Moi j'adore les sardines au barbecue, on est d'accord, dans un immense jardin avec pas de voisins autour parce que sinon vous avez une plainte pour
sinon on invite
pour
les
odeur,
voisins.
Oui, on invite les voisins.
Sinon on invite. Alors il faut
c'est
savoir que les sardines effectivement ça sent un petit peu en général si on enlève la tête et qu'on ne travaille que les filets, c'est un peu moins odorant.
Mieux. D'accord. Il y a eu plein de questions pour vous Olivier Pouls depuis hier, notamment Sébastien sur Twitter qui nous dit question barbecue, quel type de barbecue est le meilleur?
Le goût et la santé, il faut être objectif.
Oui, question sous-jacente, est-ce qu'il faut barbecue électrique, à charbon de bois, etc. J'imagine.
Bon, ma religion est faite en ce qui concerne le goût, il n'y a pas de doute. Le charbon, voire le bois directement, les sarments de vigne, par exemple, si on est dans une région viticole et qu'on en a ramassé au moment de la taille, qu'on les a fait sécher, ça marche très très bien. Même des épines de pin, des choses comme ça, ça va aromatiser.
C'est
bien
meilleur.
Mais
c'est les médecins qui ne sont pas contents.
Mais évidemment, c'est un petit peu. Et puis surtout, il faut faire très attention. Il ne faut pas brûler les aliments. Ce qui est très cancérigène, ce sont les parties brûlées que vous pourriez avoir sur la viande, le poisson, etc. Donc dès que c'est brûlé, vous enlevez, vous ne mangez pas. Mais évidemment, en termes de goût, c'est bien meilleur que le barbecue à gaz, qui reste lui très performant et qui, d'un point de vue de la santé, est meilleur. En revanche, le barbecue électrique, franchement, là, je ne suis pas fan parce que je trouve que la résistance qui chauffe, on se rapproche d'un four en réalité.
Ouais,
hein,
c'est
vraiment comme le grill du four. Je trouve que ça n'apporte pas une plus-value gustative très intéressante. La plancha, on en parlera d'ici la fin du mois, mais c'est une alternative qui est remarquable parce que d'abord ça permet de cuire sans beaucoup de matière grasse, vraiment, ça permet de tout cuire, là aussi on va le voir, mais ça n'aromatise pas les éléments comme évidemment un barbecue qui dégage cette bonne odeur de fumée.
Alors il y a David qui nous demande sur Instagram, il y a une huile de cuisson idéale ou vraiment aucune n'est bonne pour la santé?
Alors c'est pas la peine par exemple d'utiliser une bonne huile d'olive pour la cuisson parce que toutes ces qualités organoleptiques vont disparaître à la cuisson, c'est perdu. L'intérêt de l'huile par rapport au beurre, c'est qu'il a il peut monter à des températures bien plus élevées sans pour autant brûler. Donc c'est vrai que mettre un tout petit peu d'huile, une fine pellicule d'huile, surtout pas trop, parce que sinon l'huile va, au moment où on va poser les aliments, elle va couler, elle va tomber dans le feu, elle va s'enflammer. Donc vraiment, ça permet aussi de protéger la chair du poisson, de la viande et même des légumes. Donc on en met un tout petit peu, mais c'est pas la peine d'investir dans une huile très parfumée, de grande qualité, une huile d'arachide classique ou une huile d'olive, on va dire bio, bas de gamme, ça fait l'affaire.
Alors je vous le disais, on a eu beaucoup de questions, mais qui n'ont rien à voir en l'occurrence avec le barbecue. Olivier Pouls, c'est Marc qui nous a écrit ce matin sur Twitter. Cette question, elle est pour vous et pour moi. La fameuse salade niçoise, que de variantes.
On va déclencher encore une guerre, là.
Avec ou sans riz, avec ou sans artichaut, quelle est votre recette, Olivier? Allez-y et après je réponds.
Bon alors, en tant que Belge, évidemment, je suis un peu moins concerné que vous par la salade niçoise, mais d'après ce que j'en sais, on n'utilise pas à part l'œuf, on n'utilise pas de produits qui soient cuits.
Exactement.
Donc il
n'y
a pas de riz ou pas de pommes de terre dans la salade niçoise.
Jamais.
Mais uniquement des légumes crus de saison.
Exactement.
Et qu'on va faire varier d'ailleurs au fil des saisons, la base étant la tomate quand on en a. On peut mettre des concombres, on peut mettre des petits artichauts, mais des poivrades.
Les petits artichauts poivrades.
Pas les artichauts bretons, les artichauts poivrades du sud de la France.
Stop les bretons, hein. Vous nous avez envahis hier déjà, j'ai rien dit, la cuisine au beurre, etc. etc.
Voilà, c'est bête, on va mettre en ce moment les poivrons, tout ça, voilà. Et puis les anchois évidemment.
Et les anchois, évidemment. Une dernière question que T. Normand nous a envoyée sur Twitter. Quelles sont les propriétés nutritionnelles et gustatives de la tomate par rapport à la chair seule?
Alors, la tomate, j'imagine qu'il veut différencier l'eau, les pépins, la peau. Voilà, exactement. Alors là, je ne suis pas nutritionniste, mais globalement, c'est vrai qu'en général, la peau de la tomate, la peau des légumes contient pas mal de vitamines. Donc, ce n'est pas utile de l'enlever, surtout quand on mange la tomate crue. Quand on la mange cuite, c'est un petit peu plus compliqué.
Ouais.
Mais évidemment, c'est la chair et la peau qui contiennent tous les nutriments et les vitamines.
Alors, avant de vous dire au revoir, on avait un petit cadeau pour vous, Olivier Pouls. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Cette petite musique, c'est pour vous.
Soyez gangsters, soyez voyous. Toi Maman, tout mon loupard. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Je rêve d'un king, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout mon loupard, tu serais mon lascar superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir.
Infiniment les amis pour ce nouveau numéro du Club de l'été qui s'achève. Lise Pressac, Ben H, Olivier
Pouls. Et Aurélie, si je me souviens
exactement,
bien.
Exactement, vous vous souvenez bien des prénoms des Brigitte.
Alors on peut leur lancer un petit message si elles nous écoutent, qu'elles viennent nous rechanter une chanson en studio. Elles
quand
sont
elles
les
veulent,
bienvenues
elles sont les
cet
bienvenues.
Été.
Non mais plus sérieusement, c'est vrai qu'elles sont les bienvenues. Je vous rappelle que Renaud Capuçon, qui était notre invité, a sorti un album qui s'appelle Cinéma, dans lequel il reprend 19 bandes originales de 19 grands films. Allez-y, écoutez ça, c'est du bonheur. Demain, nous changeons encore d'univers et de région. On recevra une comédienne étonnante et drôle que vous connaissez notamment grâce à la série Cassandre sur France 3, série dont elle est l'héroïne. Gwendoline Amon sera avec nous et avec elle, nous partirons au Cap Ferré. Je vous laisse en compagnie d'Anne Romanoff en vous souhaitant une très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.
À demain.